Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Entre 1 et 1,5 million de personnes attendues dans la rue demain pour le deuxième round de la contestation contre la réforme des retraites. De son côté, le gouvernement durcit le ton. La première ministre affirme que le décalage à 64 ans n'est plus négociable. Alors cela va-t-il galvaniser les manifestants? C'est ce que l'on va voir. On verra que les prévisions de trafic pour les transports sont très sombres pour demain. On parlera aussi de ce sujet bouleversant qui interpelle tous les parents d'élèves. Le témoignage de la maman du jeune Lucas, 13 ans. Il s'est suicidé le 13 janvier dernier dans les Vosges après avoir été harcelé en raison de son homosexualité. 4 adolescents de 13 ans seront jugés. On verra comment on peut prévenir de tels drames. On entendra aussi la maman de Lucas demander encore une fois que l'on tente de mieux appréhender ce phénomène. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On en débat dans un instant avec mes invités. Mais d'abord le rappel des titres de 17h avec Adrien Spiteri.
Une marche blanche se tiendra ce dimanche à Épinal en mémoire de Lucas. Sa mère a tenu une conférence de presse ce lundi. Selon elle, le harcèlement subi par son fils a été l'élément déclencheur. 4 collégiens seront jugés au printemps pour avoir harcelé et poussé Lucas au suicide. Elisabeth Borne présente un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Depuis l'Institut du Monde Arabe à Paris, la première ministre promet une fermeté totale dans la réponse pénale, un renforcement de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Elle annonce également la création d'un mémorial pour les gens du voyage. Des obus de 155 mm bientôt livrés à l'Ukraine. La France et l'Australie ont passé un accord. Annonce du ministère des Armées Sébastien Lecornu aujourd'hui. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé la semaine dernière la livraison de chars à Kiev pour faire face à l'armée russe. Et puis Anthony Blinken est arrivé en Israël. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. En Égypte ce matin, le secrétaire d'État américain appelait au calme et à la désescalade. Il doit s'entretenir avec Israéliens et Palestiniens. Il plaide pour une solution juste au conflit, plus que jamais.
Voilà pour le rappel des titres de l'actualité d'Adrien Spiteri, un peu coupé à la fin. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir,
on est avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir Marc.
Bonsoir,
auteur
Laurence.
De Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Et avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir,
bonsoir
mon cher Eric. On va commencer par les retraites. Évidemment, c'est le sujet qui va nous mobiliser beaucoup lors des prochains jours, vous l'imaginez. Louis de Ragnel, vous avez des informations. Est-ce qu'on prévoit que la mobilisation sera plus importante ou pas? On en parle dans un instant. Mais d'abord, on va faire avec Sarah Fenzani un petit tour de tous les secteurs qui seront touchés demain. Gardez vos arguments sous le coude, j'arrive dans un instant.
Une nouvelle journée noire est à prévoir. Dans les trains, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé. 2 TER sur 10 et seulement 25% des TGV circuleront. Dans le métro parisien, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Un métro sur 4 sera en service. Les bus et les tramways, eux, seront peu impactés. Ce sera aussi compliqué dans les aéroports. Air France va annuler un vol court et moyen courrier sur 10. Les liaisons long courrier ne seront pas affectées. Dans la fonction publique, les mairies comme celle de Paris ou Montreuil garderont porte close, tout comme les écoles. FSU prévoit 50% de grévistes dans le primaire ce mardi. Déjà très suivi le 19 janvier dernier, plusieurs autres syndicats ont appelé à la grève, avec une volonté d'amplifier le mouvement. Un mouvement qui va par ailleurs être suivi dans le secteur de l'énergie. Les grévistes d'EDF devraient à nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires, sans pour autant provoquer de coupures de courant. 240 cortèges sont prévus dans toute la France, où 1,2 million de manifestants sont attendus, dont 100 000 à Paris.
Voilà pour le point de la situation. Ça s'annonce évidemment très compliqué pour circuler. Louis de Ragnel, donc je disais que vous aviez des informations sur la mobilisation de demain. Le gouvernement s'attend à une mobilisation importante, hein, on ne se le cache pas.
Bien plus importante en tout cas que la dernière fois. Souvenez-vous, on avait dépassé quand même le million, puisqu'il y avait 1,2 million de personnes le 17 janvier qui avait manifesté. Et donc là, voilà, les anticipations des services de police, c'est donc entre 1 et 1,2 million. Ce sera sans doute un chiffre dépassé, puisque souvent les chiffres de la police sont légèrement inférieurs à ce qui se produit ensuite. Avec une focalisation cette fois, c'est vraiment sur les lycéens et les organisations étudiantes. Et la question, c'est est-ce que vraiment les étudiants et les lycéens vont changer la donne? Est-ce que ça va être le coefficient multiplicateur? Donc ça, c'est la grande préoccupation des services d'anticipation au ministère de l'Intérieur. S'agissant de l'ultra-gauche, donc c'est écrit noir sur blanc, l'ultra-gauche espère capitaliser sur le succès de la mobilisation.
Parle des Black Blocs, ça, hein.
Exactement. Alors l'ultra-gauche, c'est un peu plus large. Il y a les Antifa, il y a les Black Blocs, il y a toute la famille des cousins germains des ultras à gauche, les anticapitalistes, les antispécistes. C'est une nébuleuse assez complexe. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, si vous voulez.
Non, c'est très intéressant, moi ça me passionne.
Et donc ils veulent, voilà, ils veulent absolument accroître leur présence dans les cortèges, voilà, tout en essayant de rallier à leur cause la sphère étudiantine. Donc c'est voilà, ça c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises.
Beaucoup d'inquiétude sur les jeunes, voilà. Parce qu'on rappelle, c'est Charles Pasquage qui disait, quand les jeunes c'est comme le dentifrice quand c'est sorti du tube,
c'est la
difficile
théorie du dentifrice.
De faire rentrer.
Hein. J'ai parlé avec l'inflation ici, Gabriel.
C'est pas faux.
Absolument, du coup les risques d'incidents sont principalement repérés donc, par rapport aux anticipés dans les lycées, les facs, les ports et les raffineries. Toujours pour revenir à l'ultra-gauche, donc il y a plusieurs villes qui vont être scrutées de près demain, notamment Pau, Brest, Bordeaux, Limoges, Toulouse ou encore Lille et Dijon.
Et Nantes,
Nantes également, pardon.
Ah, oui.
Donc les villes où il y aura le plus de radicaux, a priori, ça va être à Lille, 400 radicaux qui sont anticipés, Toulouse, 200, Limoges, une cinquantaine. Et donc c'est des radicaux issus de la mouvance écologiste, des antifas, mais aussi des associations étudiantes comme Révolution Permanente, Point Levé Bordeaux, par exemple, s'agissant de Bordeaux, et avec des gens qui vont se mobiliser aussi pour lutter contre les symboles du capitalisme, donc des gens qui veulent s'en prendre
aux
banques, exactement, toutes les grandes marques. Mais, globalement, c'est une recension qui est faite par les services d'enseignement, mais globalement, le climat qui est décrit est plutôt décrit comme apaisé, calme, comme ça s'est produit.
Vous venez nous faire une liste longue comme le bras de gens qui veulent tout péter, vous nous dites que c'est calme.
Les points d'attention, mais globalement, qui se passera dans les cortèges devrait ressembler à ce qui s'est passé le 17 janvier. En tout cas, c'est le 19 janvier. En tout cas, c'est le pari des syndicats, de tous ceux qui vont se mobiliser dans les rues.
Vous avez fini, Louis?
On attendra de voir.
Mais c'était très complet, en tout cas.
Je peux même vous dire les villes dans lesquelles il y aura le plus de monde, a priori.
On fera dans un instant. C'est le teasing pendant
deux minutes. Je vous dirai ça.
Marc,
attention, prévision quand même, parce que je me souviens, avant la première manifestation, la police disait non, il n'y aura pas grand monde finalement.
750 000.
Voilà. Et on a quand même des dépassés, donc il peut y avoir beaucoup plus de monde que prévu. Moi, ce qui m'inquiète également, tout à l'heure, je me suis un peu baladé dans Paris ce matin, parce que bon, pour différentes raisons, et j'ai vu qu'il y a pas mal de lycéens qui sont dehors déjà, qui bloquent leur lycée. Ça, c'est quand même dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, si les lycéens se mettent dans le cortège, bon, déjà, c'est compliqué, effectivement, de les arrêter. Et puis surtout, ils ont de la force, quoi. Ils ont de la pêche. Donc, on va voir.
plus que vous.
Quand même, je suis plus lycéen, malheureusement, mais heureusement, d'ailleurs. Mais bon, ce que j'ai parlé, c'est que ça peut quand même montrer une certaine ampleur. Puis, bien sûr, il y a le blocage, quand même. Hein. Je vous souvenais le chiffre, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur le chiffrage du coût. 1,5 milliard. Pourquoi?
Par jour. Vous dites que la grève, une journée comme demain, coûte 1,5 milliard d'euros à la France.
De grands blocages, c'est-à-dire dans la mesure où, effectivement, on estime que le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on génère chaque jour en France, chaque jour ouvré, c'est autour des 10 à 13 milliards d'euros. Donc si on a une baisse d'activité de l'ordre de 15% sur l'ensemble du territoire, ce qui est tout à fait jouable vu qu'il n'y aura pas beaucoup de transport, etc., même s'il y a du télétravail et autres, ça veut dire que potentiellement, il y a une baisse de l'ordre de 1,5 milliard de richesse en moins.
Un mois de bouclier tarifaire.
Alors bien sûr, le lendemain, ça c'est encore le cas, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Le lendemain, on va évidemment compenser ce qu'on n'a pas fait la veille, etc. Mais il y a des dépenses. Hein, par exemple, on ne pourra pas aller au restaurant deux fois si on n'a pas été effectivement le mardi, on ne va pas aller deux fois au mercredi pour compenser, et ainsi de suite. Donc il y a quand même des risques où globalement ce durcissement effectivement des mouvements sociaux va générer un coût de plus en plus élevé sur l'activité économique, sachant que nous sommes également quasiment en récession. On aura les chiffres demain matin du PIB français. On nous dit que ça serait une petite hausse. Normalement, ça serait plutôt une baisse. Donc, ça veut dire que globalement, ça va aggraver malheureusement la situation de l'économie française aujourd'hui. Et dernier point très important, parce que je vous parle souvent de l'indicateur de confiance des ménages. Vous savez, l'indice INSEE, celui du mois de janvier est sorti vendredi dernier. Et malheureusement, bah, il baisse encore.
Il baisse, bah oui.
Et voilà. C'est-à-dire que là, on est quasiment sur le plus bas historique des attentats. On est bien plus bas pendant les Gilets jaunes, bien plus bas pendant que le Covid-19 également. Donc, c'est-à-dire que les Français sont extrêmement inquiets par l'inflation. Et donc, il y a ce ras-le-bol qui est là et qui pourrait évidemment coûter cher à l'économie française.
Éric Revel, un petit mot là-dessus. Après, on va voir que les commerçants sur les trajets de la manif, quand même, à Paris, un petit peu peur de ce qui peut se passer demain.
Je pense que la mobilisation va être évidemment très forte. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure la déclaration de la Première ministre, les 64 ans ne sont plus négociables, va pas rajouter un peu de carburant d'ailleurs.
Mais j'en suis sûr, moi.
Alors, c'est intéressant parce que si on en est sûr, je pense qu'en faisant cette déclaration-là, elle en était certaine aussi. Donc ça veut peut-être dire que, en réalité...
Il y a une stratégie ?
Je vais vous donner mon hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut, parce que vous me dites ça va sans doute gonfler les troupes des manifestants.
Oui.
Bon. Mais alors moi je me demande si
c'est un peu cause toujours quoi.
L'idée c'est pas de faire le plein absolu demain de manifestants
après,
le 31 janvier, et ensuite un mouvement qui va décélérer un peu, parce que si vous mobilisez beaucoup demain. Les jours suivants, quand il y aura d'autres mobilisations de nouvelles dates syndicales, ça risque d'être moins fort. Et peut-être qu'à partir de là, le gouvernement jouera une sorte de pourrissement. C'est pas impossible.
La manif de 95, c'est avec crescendo.
Oui, mais là, non, mais là, la déclaration d'Elisabeth Borne, quand même, vendredi, sur une chaîne de radio, en disant ce n'est plus négociable, alors c'est de l'ultra-fermeté.
Ce n'est plus négociable. Voilà. C'est le compromis que nous avons proposé. C'est nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
Donc elle assure le carburant pour une mobilisation plus forte demain. C'est ça qui est politiquement qu'on a du mal à suivre.
Donc moi, c'est.
Donc c'est mon hypothèse. C'est un coup de poker. Moi j'appelle ça un coup de poker.
Très dangereux.
Oui, j'appelle ça un coup de poker.
Et de la première ministre et du président. On y reviendra dans un instant. Juste on regarde un petit peu du côté des commerçants qui sont sur les trajets des manifestations. Ils ne sont pas dans un état d'esprit très positif pour le coup. Écoutez ce que nous disait Kinson sur l'état d'esprit des commerçants.
Oui, Laurence, nous sommes à mi-chemin du parcours de la manifestation boulevard du Montparnasse et les commerçants avec qui nous avons échangé resteront pour la majorité ouverts demain. Habitués des manifestations, disent-ils, ils savent comment réagir en cas de débordement. Je vous propose d'écouter le témoignage de Yannick Poirier. Il est gérant de cette librairie depuis 30 ans et il se dit serein.
On vient quand même travailler, on ouvre la librairie. On la ferme si effectivement on voit qu'il y a un peu trop d'agitation et qu'il y a un peu trop de risques. Ça nous est arrivé 2-3 fois de la fermer. Mais globalement, non, on laisse passer la manif, voire on s'associe à la manif en disposant en vitrine des calicots où il est écrit « en grève ».
La principale inquiétude dans le quartier, c'est le chiffre d'affaires. Une coiffeuse me confiait tout à l'heure que plusieurs clientes ont déjà annulé leur rendez-vous de demain. La raison en est simple, la circulation sera bloquée le temps de la manifestation. Je vous propose d'écouter Mickaël, il est opticien et il vient tout juste de s'installer.
Je n'appréhende pas particulièrement, on verra le monde qu'il y a, on verra sur un bouclage complet, mais il se peut que ça passe assez rapidement, et puis qu'après, dans le reste de la journée, il y a aussi une activité commerciale, donc je vais rester ouvert, et puis on verra ce qu'il en est, sans appréhension particulière.
D'autres commerçants ont décidé de fermer par mesure de précaution à Laurence. En 2020 notamment, des restaurateurs ont subi des dégradations lors du mouvement des Gilets jaunes. Ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Ils veulent se montrer le plus discret possible pour éviter d'être dans le viseur de potentiels casseurs.
Merci effectivement Kinson. On comprend leur prudence et leur discrétion. Alors, on a cette mobilisation qui va sans doute se durcir. On a le gouvernement qui est bien braqué sur ses positions. Est-ce qu'il y a une voie de passage, Louis ? Le débat commence à l'Assemblée nationale. Il y a des milliers d'amendements qui ont été déposés par les oppositions. Mais est-ce que tout ça va finir par s'amenuiser ? On disait qu'il y a une stratégie du gouvernement, une espèce de coup de poker. Allez-y, manifestez tous demain. Mais de toute façon, nous, on passera le texte. Il va faire 20 jours à l'Assemblée et part au Sénat. Et il sera adopté si la majorité vote.
Alors, pour le gouvernement, là où l'équation est vraiment pas simple, c'est que les manifestations ont commencé bien en amont de l'examen réel du texte. En fait, cette semaine, en commission, il va pas se passer grand-chose. Il y aura peut-être des coups d'éclat, mais c'est pas à ce moment-là que le gouvernement va tendre la main pour essayer d'obtenir un compromis avec qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que sur ce texte-là, en fait, tous les amendements qui auraient pu être acceptés par le gouvernement, le texte va revenir dans sa version initiale lorsqu'il sera examiné dans l'hémicycle.
Exactement.
Donc, en février, début février.
Début février. Okay.
Voilà, au moment où vraiment le texte sera présenté, voilà, de manière officielle et finale.
Attendez, parce que là, il est à l'Assemblée pour 20 jours, c'est ça ?
Non, là, il est juste en commission.
En commission.
Et puis
d'accord.
Ensuite, le 8 février, il arrive en séance publique.
Non,
il arrive
c'est
en séance publique.
Aux Français,
et c'est à ce moment-là que le gouvernement réellement, sauf s'il décide de, d'envoyer des signaux là avant demain, mais j'y crois pas beaucoup.
Sur la pénibilité,
alors il y a quelques critères, il y a les mères de famille effectivement, élargissement des critères de pénibilité, on est bien d'accord, chère Laurence, sur les pensions de reversion, donc et voilà, et sur les carrières longues globalement. Mais ce qui est difficile pour le gouvernement, c'est que en privé d'ailleurs, plusieurs ministres vous disent, on a une marge de manœuvre maximum de 3 milliards d'euros. On est prêt à lâcher l'équivalent de 3 milliards d'euros par rapport à ce que pourrait rapporter la réforme. Sauf qu'il y a des compromis, je pense par exemple sur l'histoire d'harmoniser les 43 années
pour les carrières longues,
ceux qui commencent à travailler à 20 ans.
Pour ceux qui commencent très tôt et 43 ans pour les autres.
Exactement.
Pas très
juste, typiquement, cette mesure, elle coûte 3 milliards d'euros. Donc si le gouvernement
tend
la main
famille,
sur celle-là, il n'y en a plus d'autres possibles. Et donc, in fine, si cette réforme ne permet de gagner que 5 milliards d'euros...
Mais ça servira à quoi, cette réforme?
Alors, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent.
Tournez vers Marc, adore faire les calculs.
Absolument. Moi, je pense qu'elle va dans le bon sens d'un point de vue de l'équilibre budgétaire, l'équilibre des retraites. Mais c'est vrai que quand on met en perspective un gain de 5 milliards d'euros par rapport, par exemple, à ce qu'a coûté le bouclier tarifaire ou le bouclier énergétique, on se dit, mais en fait, 5 milliards de plus, 5 milliards de moins... c'est peut-être pas énorme, et il y a beaucoup de gens du coup qui se posent la question, est-ce que réellement elle est nécessaire? Et je termine d'un mot là-dessus, pour Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, en fait, il ne peut pas renoncer là maintenant tout de suite, parce que sinon politiquement il est mort, parce que ça vous, il l'a présenté lui-même comme la mère des réformes, donc en fait c'est la réforme la plus importante à ses yeux. S'il renonce, s'il recule, on se demande bien ce qu'il va pouvoir faire passer comme prochaine réforme.
Marc Toiti, si on fait les additions, on fait, allez, 18 milliards excomptés d'économie, vous enlevez 3 milliards sur les métiers pénibles, etc.
En fait, encore une fois, on table sur à peu près entre 2 et 2,5% de croissance annuelle en France pour financer effectivement ce système, ce nouveau système des retraites, et un taux de chômage de 5%. Sur les dernières années, sur les 15 dernières années, on a fait 0,7% de croissance par an. Alors soyons optimistes, on dit on va faire 1%. Allez, soyons fous. En fait, 1%, il vous manque déjà 10 milliards. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il suffit que la croissance ne soit pas au rendez-vous, qu'on ait une crise grave, qu'on ait une récession. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est ça moi qui me rend...
Donc il lui fallu avoir une réforme plus ambitieuse.
Mais évidemment, évidemment. C'est-à-dire que pour eux, finalement, encore une fois, une réformette, on risque d'avoir ce type de blocage que nous avons qui, à mon avis, dépasse
une simplement... Une réformette avec des injustices dedans, donc si vous voulez,
c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'à la rigueur, encore une fois, c'est-à-dire une vraie réforme, on allait revoir complètement de fond en comble le système des retraites, également plus de justice aussi, parce que là, on l'a oublié, il y a toujours des régimes spéciaux qui vont se maintenir. Finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc c'est ça ce qui aujourd'hui, pour moi, me paraît extrêmement dangereux, c'est qu'on va s'arc-bouter sur cet âge limite, entre guillemets, ou cet âge légal, alors que finalement, il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants, et de donner le choix, effectivement, aux Français. Donc, même si cette réforme passe, bon, dans quelques années, il faudra refaire une autre réforme des retraites, parce qu'elle est déjà caduque, à cause des hypothèses économiques qui vont, de toute façon, nous coûter très cher. Donc là, négocier 1 milliard, 3 milliards, ça me paraît déjà perdu d'avance.
On va revenir dans un instant à la réforme des retraites et la grande contestation de demain et à laquelle chacun se prépare. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un autre pan de l'actualité qui concerne le suicide de ce jeune garçon de 13 ans qui s'appelait Lucas. Il s'est donné la mort le 13 janvier dernier à Golbey dans les Vosges. Il était harcelé depuis la rentrée en raison de son homosexualité revendiquée. Sa maman a décidé de prendre aujourd'hui la parole. Elle veut honorer la mémoire de son petit garçon. Rien que la photo, voilà, ça vous met les larmes aux yeux. Une marche blanche aura lieu ce dimanche à 14h à Épinal. Et ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, c'est que 4 adolescents de 13 ans seront jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. J'aimerais qu'on écoute juste les mots choisis par la maman de Lucas, non pas pour dire sa colère, mais pour dire voilà, qu'il faut que les choses changent. On ne peut plus accepter que nos petits, nos enfants soient harcelés et poussés au suicide en raison de telle ou telle orientation. Écoutez son témoignage.
Bon, c'était pas mon fils de partir. C'est pas au harcelé de partir, c'est au harceleur de partir. Parce que c'est mon fils et c'est des milliers d'autres encore. J'ai reçu énormément de messages, on en voit de partout là en ce moment. C'est pas assez, c'est pas au point. Il n'y a pas assez de personnes formées, il faut des personnes formées dans chaque établissement, il en faut un minimum, il en faut vraiment partout en fait. Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider, au moins les soutenir. Parlez-en, libérez-vous, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur des représailles. Il y a toujours une écoute, Il y a toujours quelqu'un à qui on peut parler, que ça soit au collège, dans la famille, les amis, peu importe où qu'on aille, il y a toujours une oreille attentive et il y a des moyens pour les aider qui sont pas forcément mis en avant. Et il y a les numéros, il y a les plateformes, il y a des associations, il y a beaucoup de choses. Et faites-le, vraiment, faites-le. Aidez, n'ayez pas peur de vous libérer surtout.
Voilà pour ce témoignage de la maman qui dit aussi à un autre moment qu'elle veut pas qu'on condamne ce qu'elle appelle aussi des enfants, ceux qui ont harcelé son petit garçon. Mais elle dit, Eric Revel, et je suis sûre que ça vous touche, voilà, il faut parler. C'est pas facile de parler quand on est un petit garçon et qu'on est harcelé à l'école et jusqu'à la maison, parce que les réseaux sociaux, c'est jusqu'à la maison, hein, dans votre chambre.
Oui, c'est ça qui rajoute évidemment à la persécution, en fait. Hein, ce sont les réseaux sociaux. On sait bien que les enfants dans leur classe ont des groupes WhatsApp. Voilà, tout circule. Moi, je trouve qu'elle a évidemment beaucoup de courage, la maman de Lucas, parce que au-delà du drame absolu qu'elle a vécu, elle se projette quand même. C'est un peu du plus jamais ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, le président Macron ou son épouse s'étaient emparés du sujet.
Brigitte Macron
s'était emparée du sujet, c'est-à-dire le harcèlement à l'école au sens large, qui devient un vrai fléau, qui est énormément nourri par les réseaux sociaux, vous avez raison de le dire. Et je me demande s'il ne faudrait pas en faire une sorte de cause nationale,
C'est une grande cause nationale.
C'est une grande cause nationale, mais la maman de Lucas dit, et je veux bien la croire, il n'y a pas suffisamment de moyens,
Elle dit l'éducation nationale n'a pas fait assez.
Voilà.
Et elle dit que ça c'est vraiment important.
Voilà. Donc entre le drame qu'elle a vécu et plein d'enfants qui sont en fait harcelés hein, au quotidien dans des classes.
Et là c'est très particulier.
Bien sûr.
C'est de l'homophobie. Vraiment,
bien sûr. Pour le coup. En plus c'est de l'homophobie. Mais ce que je veux dire c'est que le harcèlement au sens large c'est un fléau qui touche. Interrogez autour de vous, Laurence, vous verrez que vous avez souvent quelqu'un qui vous rapporte des propos d'une famille qui a eu à faire face à ce type d'horreur, c'est-à-dire son enfant harcelé. Et c'est doublement pénible, sans aller jusqu'à, évidemment, un suicide. Pourquoi ? Parce que, en tant que parent, vous avez l'impression que vous êtes impuissant. Mmh. Vous êtes impuissant. C'est-à-dire que vous voyez votre gamin qui va revenir.
Et qui va pas bien, et vous n'arrivez pas à comprendre jusqu'où.
Si l'enfant veut bien parler, parce qu'en fait, il y a plein de familles qui découvrent un peu par hasard que l'enfant en question est harcelé à l'école, hein. Ça existe aussi,
elle l'a pas découvert parce qu'elle dit fait deux interventions auprès du collège.
Bien sûr, en plus.
Et que le collège l'a pas écouté. Donc, en tout cas, n'a pas réagi comme il le fallait, Marc Toiti. C'est terrible.
C'est horrible. Et moi, je pense que c'est surtout cette violence des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est finalement devant son écran. Et des fois, on reçoit des messages assez incroyables. Alors, il faut tout de suite les bloquer. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être que les parents aident également, soit derrière leurs enfants en permanence. Dès qu'il y a effectivement des messages de haine, etc., bloquer tout de suite. Bloquer ces personnes-là. Mais c'est vrai que, alors, aussi un conseil. Parce que, c'est une sorte de drogue maintenant, tous ces réseaux sociaux, ces smartphones, etc. Peut-être imposer une journée par semaine sans smartphone, sans
réseaux sociaux. Vous avez essayé avec vos enfants ?
Moi, je le fais personnellement, si vous voulez.
Mais vous ?
Ils sont grands maintenant, Mais c'est vrai que je les incite également à le faire. C'est vrai qu'on a cette drogue assez incroyable. Et voilà. Et c'est ça qui est aussi une des conséquences également de ce coronavirus qui nous a enfermés sur nous-mêmes. C'est ça qui est assez incroyable. Et on ne vit que par ces réseaux sociaux.
D'accord.
C'est ça qui est dramatique.
Mais là, c'est pas que la question des réseaux sociaux, parce qu'il était victime de harcèlement au collège. Hein, je veux dire, c'était des bousculades, des intimidations, des insultes.
Bien sûr, l'école, bien entendu.
Et Louis Ragnel, il y a aussi quatre adolescents de 13 ans qui seront jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. C'est pas rien. Hein.
Ah bien sûr, non, mais ça veut dire que, la procédure judiciaire est allée quand même assez vite, globalement. Donc ensuite, on regardera de près les peines qui seront prononcées contre ces quatre enfants. Après, moi, je connais pas la responsabilité de chacun de ces enfants.
Non, bien entendu. Mais juste
de fait, ils ont participé à ça. Moi, je pense que dans cette histoire, alors évidemment, il y a des failles du côté de l'éducation nationale, mais c'est un peu comme même si la comparaison est peut-être pas parfaite, quand on reproche plein de trucs à la police, l'éducation nationale ne peut pas tout faire. Elle doit bien sûr alerter, elle doit prévenir les parents des deux côtés. Mais moi, je crois qu'il y a, c'est surtout d'abord et avant tout une question de responsabilisation des parents. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de parents qui se lavent les mains et qui se disent c'est l'éducation nationale qui va éduquer mes enfants. Et je pense que les parents ont une mission à la fois d'essayer de, dans la mesure du possible, d'essayer de protéger leur enfant s'ils sont victimes de harcèlement. Et je sais que c'est très compliqué, très complexe. Vous venez de l'expliquer très justement, Eric Revel. Et également, les parents ont une mission de d'expliquer à leurs enfants.
Ils ont fait tout ce qu'il fallait, les parents.
Quand même, du harcèlement, non.
Ah, mais bien sûr. Mais vous croyez que votre gamin, il rentre en vous disant, j'ai harcelé mon petit copain?
Mais après, non. Pour le coup, c'est peut-être la responsabilité de l'éducation nationale, ou en tout cas, du chef d'établissement, professeur principal dans les classes, c'est de prévenir aussi les parents d'enfants qui sont en train de harceler, leur dire attention, votre enfant est en train de faire ça, c'est en train de dépasser certaines limites, on n'est plus dans la phase du jeu ou de la taquinerie, ça commence, voilà, et on voit un enfant qui est en train d'être complètement détruit de l'intérieur, et ça, je pense que réellement les professeurs doivent le dire aux parents qui sont responsables de leurs enfants, mais la difficulté encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ne supportent plus entendre le moindre reproche concernant leur enfant, puisqu'ils considèrent que c'est à l'éducation nationale de gérer leur enfant.
De tout faire.
Et je pense que le problème initial vient de là, réellement. Abandon du projet éducatif de la part des enfants, et qui fait que les parents sont complètement ultra susceptibles, ne refusent toute critique, et de l'autre côté, le corps enseignant qui parfois, du coup, hésite, marche un peu sur des œufs. Et ensuite vient la question.
Les parents doivent élever leurs enfants, et l'école doit les, encore une fois, les instruire. C'est pas exactement la même mission, faut pas confondre.
Mais on est entièrement.
C'est de l'instruction à l'école.
Absolument.
L'éducation, c'est à la maison.
Et pour moi, ça relève évidemment de l'instruction, puisque à l'école, l'enfant est avec ses camarades, et c'est normal. Voilà. Mais à la maison, il y a une mission d'éducation. Des parents. Je termine simplement d'un mot sur les réseaux sociaux. Non mais
deux fois.
Non mais si, mais oui, mais parce
important.
Que c'est important.
Ça,
c'est
mais vous savez, on y revient après la pub.
C'est de la technique,
mais il y a
des collèges, il y a des lycées maintenant qui interdisent le téléphone portable. Il y a des brouilleurs dans des collèges et des lycées. Je sais bien que ça ne règle pas tous les sujets.
Ça,
et voilà.
Mais ça peut être fait.
Et encore une fois, après, à la maison, c'est aux parents. Je sais que c'est très difficile, mais d'essayer du mieux qu'ils peuvent de gérer le portable.
On aura dans un instant le témoignage d'Hugo. Il sera en direct. Il a été lui aussi victime de harcèlement. Il a monté une association pour dénoncer ce qu'il a subi. Et puis on entendra un autre extrait du témoignage de la maman de Lucas. A tout de suite, Tom Punchline sur CNews. On revient sur ce débat terrible concernant la mort du jeune Lucas, 13 ans. A tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
Onze mille policiers et gendarmes mobilisés ce mardi en France, 4 000 à Paris, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Aujourd'hui, plus 1 million de manifestants sont attendus pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans la capitale, le cortège s'élancera de la place d'Italie à 14h pour rejoindre la place Vauban vers 19h. Elisabeth Borne présente un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Depuis l'Institut du Monde Arabe à Paris, la Première ministre promet une fermeté totale dans la réponse pénale, un renforcement de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Elle annonce également la création d'un mémorial pour les gens du voyage. Et puis au moins 47 morts et 150 blessés au Pakistan, conséquence d'une explosion à l'intérieur d'une mosquée. Elle a eu lieu ce lundi à l'heure de la prière. La mosquée se situe à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. L'ensemble du pays a été placé sous alerte sécurité.
Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, avec Marc Toitier et Crevel. On accueille Jean-Christophe Couy. Bonsoir, secrétaire national Unité SGP. On va parler du dispositif policier pour demain. Mais d'abord, j'aimerais qu'on continue à évoquer le cas de ce jeune garçon de 13 ans, Lucas, qui s'est donné la mort dans les Vosges le 13 janvier dernier, parce qu'il était harcelé en raison de son homosexualité. Sa maman a pris la parole. On va écouter un autre extrait de son témoignage où elle évoque la mémoire de son fils qui aura lieu autour d'une marche blanche ce dimanche à 14h. Écoutez-la.
Pour honorer la mémoire de mon fils, pour lui rendre le plus beau des hommages, parce que c'était un super petit garçon en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Et voilà, je veux pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils ?
Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait. Ça fait 3 semaines et voilà, on ne réalise toujours pas. Et la colère, elle va être mise à bon escient. Elle va être, on va mener le combat derrière. Et on ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. On ne va pas pointer qui que ce soit. Ça, c'est clair parce qu'on a... Voilà, on est quand même assez mature, hein. Enfin, on a autre chose, Lucas n'aurait pas voulu ça. arrêtez, mettez-vous à la place des harcelés et réfléchissez au mal que ça fait. Ça peut faire, même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes. Et il y a d'autres manières de parler, de communiquer. Voilà, on est libre, on est tous libres en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est tous libres.
Voilà pour ce témoignage bouleversant de la maman de Lucas. On est en ligne avec Hugo. Bonsoir Hugo, vous avez été vous aussi victime de harcèlement. Vous avez même monté votre association pour dénoncer ce que vous avez subi. Quand vous entendez la maman de Lucas dire « personne n'a pu le sauver », j'imagine que ça résonne douloureusement en vous.
Bien évidemment, et c'est d'autant plus le cas que ça fait maintenant 5 ans que l'association Hugo que j'ai fondée essaie de trouver des solutions, essaie de se faire entendre. Essayez aussi de montrer à quel point on parle bien sûr de prévention et c'est important la prévention, mais il en est qu'aujourd'hui, malgré tous ces efforts de prévention, on a des victimes sur les bras. On a aujourd'hui 1 million de victimes en France, rappelons-le, hein, qui sont 1 million d'enfants victimes chaque année de harcèlement scolaire. Et nous, depuis le début, on dit, il y a un moment, on aura beau mettre en place toutes les plus grandes campagnes de prévention, il faut accompagner ces victimes. Aujourd'hui, je le rappelle, pour les victimes, pour les familles, il n'y a pas d'accompagnement, notamment thérapeutique, pour se reconstruire après le harcèlement scolaire. Il n'y a pas d'accompagnement pour permettre à ces enfants de reprendre confiance en eux, parce que on le sait, le harcèlement scolaire, c'est la plus belle finalement attaque qui puisse exister de l'estime de soi et de la confiance en soi pour ces enfants. Donc non, ça, on regrette aujourd'hui, et les propos de la maman de Lucas le montrent, quand on est face au harcèlement scolaire, on est démuni.
Comment ça s'est manifesté pour vous, Hugo? C'était quoi, pendant plusieurs mois, des insultes, des menaces, des bousculades? Jusqu'où ça allait?
Ça a duré de 6 à 18 ans, donc oui, ça a été assez long, hein. Ça a duré près de 12 ans, le harcèlement scolaire. Moi, ça a pris plusieurs formes, hein. Ça a commencé par des insultes, parce que j'étais le bigleux de service, parce que j'étais le gros de la classe, et puis j'étais l'intello de service, donc c'était vraiment le stéréotype clé. Et puis, en passant au collège, ça s'est plutôt manifesté, en plus de cette violence verbale, ça s'est manifesté sous forme de violence physique. Alors moi, c'est arrivé très tard. Le cyberharcèlement aujourd'hui arrive dès le CP. Là, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui arrive très tôt, dès le CP, dès les premières années. Moi, ça a commencé plus tard, plutôt vers fin de collège. Et j'ai eu cette chance-là, heureusement, d'être préservé avant. Mais le cyberharcèlement a été sur la fin de ma scolarité, de la troisième jusqu'à fin de lycée, une vraie problématique à laquelle j'ai été confronté, sans être pour autant moi-même au début, moi-même sur ces plateformes. C'est là aussi le danger des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas forcément sur ces plateformes. Là, c'était Facebook à l'époque, et on peut être victime de cyberharcèlement.
Une dernière question, Hugo. Vous dites, et la maman de Lucas le dit aussi, il faut plus de prévention dans les établissements. Elle dit qu'il faut que les harcelés se mettent dans les harceleurs se mettent à la place des harcelés.
Oui, mais moi surtout, moi je crois que, vous savez, moi, je me suis battu personnellement depuis maintenant près de 5 ans pour qu'il y ait une loi, cette loi du 2 mars 2022. Cette loi, c'est ce qui a permis justement que les 4 collégiens qui ont été l'auteur des faits de harcèlement puissent être entendus par la justice. Cette loi, ce délit de harcèlement scolaire, je crois que c'est ce qui va faire avancer les choses. Il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience en France que le harcèlement scolaire n'est plus impuni. Il n'était pas normal que le harcèlement au travail soit puni par la loi pour les adultes et que pour les enfants, on les laisse se battre entre eux. Et ça, j'en suis fier et je crois que ça a été important. Et là, cette avancée, elle doit envoyer un signal à toute la France, c'est que le harcèlement scolaire, en France, il ne restera pas impuni.
Mais merci beaucoup, Hugo, de ce témoignage. Je renvoie à votre association, Hugo, que l'on doit trouver assez facilement sur Internet. Jean-Christophe Couvy, on l'a évoqué avec Hugo, il y a le harcèlement scolaire, il y a le cyberharcèlement. Et puis, il y a aussi cette information, ces 4 adolescents de 13 ans qui vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. C'est assez rare, ce type de procédure, dans le cadre d'un suicide?
Ben oui, c'est rare parce que effectivement, chaque fois qu'il y a un suicide, on nous dit toujours que c'était une personne qui était fragile déjà. Mmh. Mais ça, je trouve que c'est un faux problème. C'est qu'il y a toujours une cause. Et cette cause-là, effectivement, les enfants, ils n'ont pas de filtre. S'il y a une telle violence, que ce soit dans les cours primaires ou dans le collège, on est cash, on dit les choses. Et effectivement, c'est le bouc émissaire. Et ça, on le voit. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est nouveau dans la société. Et on voit qu'il y a cette présence qui est quotidienne. Et effectivement, c'est comme, toujours en groupe, en fait. On prend une tête de turc, on s'acharne sur lui. Mm-hmm. Et puis, à chaque fois qu'on passe, à chaque fois, c'est des brimades. À chaque fois, c'est presque un effet de mode, à la rigueur, pour montrer qu'on est des caïds. Et oui, nous, policiers, il faut qu'on passe un peu plus, il faut qu'on ait ce temps d'aller justement dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, pour parler de tout ça, pour parler de la drogue, pour parler des suicides, du harcèlement et tout. Et ce temps-là, on l'a de moins en moins. On l'avait à une époque, il nous faut nous le redonner. Alors je sais qu'il y a encore voilà des collègues qui arrivent à y aller, même des parents d'élèves qui sont policiers, etc., qui prennent sur leur temps de repos pour aller parler, pour aller expliquer les métiers de la police, etc. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est ce contact avec la population et c'est les enfants. Aller aussi, pourquoi pas, leur faire visiter des commissariats, des juridictions aussi de dans la justice, les pompiers, tous les services publics, et leur montrer vraiment ce que c'est, et montrer surtout ce que c'est, qu'une fois qu'on fait cette infraction, tout ce que cela entraîne derrière, en fait, la cascade, y compris pour les familles, et les familles des harceleurs.
Et on rappelle le numéro de téléphone qu'on peut appeler si on est harcelé, c'est le 3020, c'est important, il y a un numéro d'écoute. Il y a des choses qui peuvent passer par la police et les plaintes, mais aussi il y a des choses qui peuvent se résoudre au sein des établissements scolaires et des familles. Voilà pour ce cas très très lourd du jeune Lucas qui s'est suicidé donc le 13 janvier dernier. On va revenir avec vous, si vous le voulez bien, puisque vous êtes là aux manifestations de demain qui s'annoncent très importantes. Environ 1 million, 1,5 million de personnes, c'est ce que nous disait Louis de Ragnel, dans la rue, avec un dispositif policier, 11 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur le terrain. On fait le point avec Amélie Boucaud et vous nous direz si c'est un dispositif qui est plus ou moins important que celui de la dernière fois. D'abord, Amaury.
– 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire, 4 000 à Paris, c'est un peu plus que pour la précédente manifestation qui avait eu lieu le 19 janvier dernier. Là encore, la manifestation devrait être d'une certaine ampleur, puisque 1 million de personnes pourraient se mobiliser un peu partout en France. 250 actions ont été déclarées sur tout le territoire. Et puis à Paris, les autorités tablent sur 80 000 à 100 000 manifestants. La mobilisation devrait également concerner de nombreux lycées, puisque plusieurs syndicats de lycéens ont appelé à manifester. Et puis enfin, à surveiller l'ultra-gauche, déjà présente dans certaines villes lors de la précédente manifestation, qui pourrait venir à nouveau perturber certains cortèges.
Merci beaucoup, Amaury. Vous, Jean-Christophe Couy, vous craignez des black blocs, les éléments violents dont on parle ?
On craint toujours un petit peu, mais disons que encore une fois, ça va être très bien encadré. On a vu qu'on a, des dispositifs de maintien de l'ordre qui sont assez musclés, où toutes les confédérations syndicales vont faire le boulot. Quand il y a cette bonne coordination entre la police et les confédérations syndicales, on voit bien que tout est carré et qu'on ne laisse pas la plage, j'allais dire, à des infiltrations de black box. Voilà. Donc après, oui, il y aura toujours des petits black box peut-être qui vont venir pour rendre des coups, parce qu'il faut qu'ils existent, ces pauvres bougres là. Ils viennent exprès pour pourrir la situation. Et moi, ce que je vois, c'est que encore une fois, on attend beaucoup de monde. D'ailleurs, le nombre de policiers a un peu augmenté par rapport à la dernière fois.
11 000, oui, c'était 10 000.
C'était 10 000 la dernière fois, ouais, donc on monte un peu en pression, puisque forcément, il y a plus de manifestants qui sont prévus. Et on va surtout voir aussi, on va prendre la température, en province. Est-ce que les villes moyennes et les petites villes de France vont aussi se mobiliser? Moi, j'en suis sûr, mais il n'y aura pas que Paris. Même si on a le focus sur Paris, il y aura aussi toutes les villes moyennes à surveiller.
Alors, on a des images là des quelques heures qui se sont déroulées le 19 janvier. On rappelle que l'ensemble de la manifestation était très pacifique et des manifestations se sont plutôt bien déroulées. Éric, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y.
Couvi, parce que là, on le disait tout à l'heure avant que vous n'arriviez, les lycéens vont se joindre à la mobilisation. Est-ce qu'en en matière de maintien de l'ordre, de doctrine de maintien de l'ordre, quand on a des très jeunes manifestants, ça doit être un peu différent, j'imagine, parce que, par définition, le moindre incident, le moindre dérapage, le moindre blessé, ça prend une autre dimension.
Oui, bien sûr, on fait attention. Puis dans la foule des étudiants, il y a peut-être aussi nos enfants. Parce que les policiers ont aussi leurs enfants, donc on fait aussi gaffe. Et puis voilà, c'est des jeunes. On sait qu'ils peuvent très vite s'énerver. On peut les manipuler aussi à leurs dépens. C'est surtout ça. Et on fait très très attention à la jeunesse. Voilà, on va pas traiter, une manifestation d'étudiants comme on pourrait traiter avec des black blocs. Bien sûr, on sait s'adapter. Après, il faut toujours garder ce contact. En même temps, il faut aussi que les jeunes étudiants puissent eux aussi avoir des protection, un service d'ordre et encadré aussi par
leurs syndicats aussi.
Par des syndicats, oui, c'est ce qu'il faut. De toute façon, il y a une signature. À chaque fois qu'on on demande une autorisation pour aller manifester, de toute manière, il y a une autorisation, il y a un responsable et des choses qui doivent être mises en œuvre justement pour protéger les manifestants en accord avec la police.
Marc Toiti.
Oui, je dirais que le plus important pour moi, c'est au-delà justement de Paris, parce qu'on on se focalise sur Paris, on attend justement des heures, etc. Ce qui se passe en province, quand même, c'est assez incroyable. Mmh. Où globalement, enfin, à ma connaissance, hein, c'est rare quand on a une telle mobilisation. Et puis également, on a des mouvements de violence. On parlait de Nantes tout à l'heure, ou Rennes, etc., comme on a vu la dernière fois. Donc ça, c'est quand même nouveau. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est en train de s'installer sur l'ensemble de la France. Et il faudra pas s'arrêter à ce qui va se passer, quand ça va se passer à Paris. Et donc ça aussi, c'est, je pense, ça marque. Je pense les esprits, où globalement on a cette situation qui est en train de s'installer et donc qui peut faire tache d'huile, qui peut se répandre. Et certains qui se disent bon, j'ai raté la première, je vais venir à la seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça qui est dangereux, c'est-à-dire que le pari du gouvernement qui est de dire oui, ben là demain il y aura énormément de monde, puis après ça va s'estomper. Moi je suis pas sûr de ça, c'est-à-dire que si on a raté la première, vous voyez, donc la deuxième il y a encore plus de monde. Alors là la troisième, on a vécu ça en 95.
Oui, bon, c'est risqué. Moins de monde à la dixième qu'on avait.
Certes, mais je veux dire, c'est un jeu extrêmement dangereux de miser ça parce que encore une fois, c'est pas que manif à Paris, c'est manif dans l'ensemble des villes de France, donc qui monte au-delà.
Et de gros, qui au-delà sont j'ai quelques chiffres, moi, d'anticipation. À Toulouse, 28 500 personnes qui sont attendues. Nantes, 26 500. Marseille, 22 000. Lyon, 18 000. Puis ensuite, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Rouen. Et même, vous voyez, Chalon-sur-Saône, 6 000. Tarbes, 6 000 personnes. Brive, 6 000 personnes.
Donc, c'est on voit vraiment, ça,
c'est la ville des préfectures et des sous-préfectures. Et c'est vrai que l'avantage, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les gens n'ont pas le coût du déplacement jusqu'à Paris, qui demande beaucoup de temps et parfois
et
d'argent.
Avec les trains bloqués.
Voilà, il y a le covoiturage, il y a d'autres choses, cher Laurence.
Oui, aussi, mais ça coûte cher en essence.
Hein. Absolument. Mais du coup, en fait, c'est des manifestations globalement qui sont près des gens, des manifestations locales où il y a du monde. Et du coup, c'est vrai que l'effet d'entraînement est beaucoup plus fort. Vous allez à une manifestation à côté de chez vous, il y a 10 000 personnes, bah, c'est pas pareil qu'aller à une manifestation où il y a 4 collés,
ça laisse des traces.
Oui, ça laisse beaucoup de traces. Déjà, la dernière manifestation, ça avait choqué un peu. Enfin, quand je dis choqué, c'est dans le bon terme.
Surpris,
voilà. Qu'effectivement, il y a autant de monde qui se, en province, qui se mobilise dans des petites villes, les villes moyennes, où les gens vont dans la rue pour manifester leur mécontentement. Et c'est vrai que ça faisait depuis très, très, très longtemps qu'on n'avait pas vu ça en France, quoi. Et même nous, policiers, à gérer, c'est pas facile non plus. On n'a pas des effectifs énormes. Bon, ça se passe bien, il n'y a pas de débordement, pour l'instant, j'allais dire, parce que la frustration va s'installer. Si à force de faire des manifestations, on voit qu'en face, effectivement, il n'y a jamais une réponse, on nous dit oui, c'est pas la rue qui gouverne, tatati, tatata. Effectivement, ça va faire monter aussi un peu la pression, la frustration. Et là, il faudrait pas qu'on en vienne justement aux mains, entre guillemets, et que ça devienne encore des gilets jaunes. Pour l'instant, c'est bien encadré. Mais on voit d'ailleurs la différence.
Il y a une immense pression sur les forces de l'ordre, du coup.
Qui seront aussi présentes dans les cortèges.
Qui seront dans les cortèges. Nous, moi, le premier, enfin, nous, on y sera parce qu'on
vous
défend aussi.
Vous aussi, oui.
Oui, on défend on est contre cette réforme des retraites et puis nos collègues sont impactés. Alors effectivement, nous n'avons pas le droit de grève. Donc nous sommes sur le terrain pour encadrer ces manifestations. Mais nous sommes là, nous aussi, pour les soutenir. Et en tant que syndicalistes, les représentants, on a des mandants, on représente nos mandants qui nous demandent justement d'aller contre cette réforme des retraites.
D'accord. Marc, tu as dit quelque chose.
Je montre que justement, c'est-à-dire, c'est pas simplement la réforme des retraites. J'ai l'impression, c'est-à-dire que ce tel mouvement qui se généralise, c'est qu'il y a un ras-le-bol beaucoup plus profond. C'est ça, moi, qui aujourd'hui m'inquiète. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur un phénomène où justement, il y a très peu de pouvoir d'achat. Et j'entends parfois certains qui disent, non, mais ça va pas durer parce que comme justement, les Français n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, ils vont se dire, un jour de grève, c'est en moins, etc. Donc, mais ça, c'est également dangereux parce qu'il y a ce ras-le-bol qui se généralise et qui peut faire mal. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas rester trop déconnecté de cette réalité, je dirais, sociale et sociétale.
C'est contre Emmanuel Macron. Aussi, contre personne.
Économiquement parlant,
l'enjeu est là. Il y a un terreau de dépression globale de la société. Et effectivement, le catalyseur, c'est la réforme des retraites. D'ailleurs, il y a un symptôme, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont issus de la droite, qui ont pu voter pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient... c'était même des défenseurs d'une réforme des retraites. Ces gens-là, il y a des gens qui vont dans la rue contre Emmanuel Macron, précisément. Et donc, il y a effectivement tout ce que vous dites, l'inflation, la question du pouvoir d'achat, espèce de ras-le-bol général. Et voilà, il ne faut pas que ça serve non plus
pour
le gouvernement de défouloir qui parle dans les extrêmes.
Je pense qu'il y a un phénomène tout à fait nouveau, et on va le voir dans cette manifestation, je pense, le 31, dans les sondages, c'est que les retraités qui constituent le socle électoral d'Emmanuel Macron sont en train de lâcher également, c'est-à-dire montent au créneau aussi pour contester cette réforme. Ça peut paraître paradoxal,
parce
qu'ils sont plutôt privilégiés
dans cette histoire. Oui, mais regardez, vous allez voir, il y a un mouvement de bascule sur son socle électoral.
En fait, les Français ont un rapport, et ce qui est normal, avec la justice sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ils seraient prêts à payer, à cotiser plus, etc. Si vraiment, alors ils avaient l'assurance que le système des retraites était vraiment en danger. Sauf qu'en fait, c'est un choix politique et les Français le voient. Les Français voient que on leur demande eux de payer la note, alors qu'à côté, on fait des ristournes à des grandes entreprises, à des grandes banques, etc., etc. Et c'est ça qui agace les gens. On trouve de l'argent pour certaines dépenses d'État. Et pas pour les autres. Là, 2% du PIB, c'est ce qu'on consacre aux retraites. Et on voit bien qu'on veut descendre ce pourcentage à 0,8. Donc en fait, la différence, ça va être sur le dos de ceux qui travaillent.
Du coup, je profite de votre passage parce que j'aimerais juste qu'on parle d'un braquage très impressionnant qui a eu lieu dans le 15e arrondissement à Paris. Trois hommes qui étranglent le gérant d'un barbier avec des images de caméra qu'on va voir qui sont impressionnantes. Explication avec Charles Baget et Barbara Durand. Vous nous direz si c'est assez courant ce type de manœuvre.
Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence pour une fausse montre de luxe. Le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
Il m'a poussé là, il y a un caf là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, donne-moi votre montre. Je ne l'ai pas donnée à la base. Après, il m'a tranglé derrière. Après, moi, j'ai pensé, sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur lui. Après, je lui ai donné la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré d'un coup.
Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui a été provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite, et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
C'est impressionnant, ces images, filmées par un voisin, Jean-Christophe Covid. C'est courant, en fait,
d'aller dans les magasins c'est pour voler courant, des montres. Mais ça se fait de plus en plus, parce qu'effectivement, il y a des systèmes de surveillance un peu partout qui sont assez élaborés. Donc maintenant, les voyous, vont vers des endroits un peu moins protégés pour des petits larcins, en fait. On voit bien, ils sont prêts à tout pour une montre, pour un peu de liquide, voilà. Et spécial dédicace à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est des collègues de la BAC qui ont interpellé, et c'est tout, l'efficience de la BAC. C'est-à-dire qu'on est en civil, on peut faire des filoches, qu'on appelle ça, nous, c'est des filatures, parce que souvent aussi, les collègues, ils ont cet esprit chasseur qui fait que quand on voit des individus, c'est marrant, quand tu es rentré dans la police, il y avait un de mes formateurs qui m'a dit « À partir d'aujourd'hui, ton regard sur la société, sur les gens va changer. » Et c'est vrai que ce regard-là, tout flic, tout policier, puisqu'on dit les flics maintenant, mais tout policier a un nouveau regard sur la société, sur les gens, et qui nous quitte jamais, en fait. Quand on va dans un endroit, un restaurant, un bar, dans la rue, on a toujours un peu un sens en alerte, et on est là pour détecter, même en repos, des choses que d'autres personnes ne pourraient pas voir. Et là, c'est exactement ça, le rôle de la BAC, c'est ça, c'est du flagrant délit, et c'est toute l'utilité de la BAC, brigade anticriminalité, monsieur Mélenchon, voilà. Ça sert à ça, ça sert à rien de vouloir l'enlever, parce que c'est efficace et les gens en ont besoin.
Et on rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait traité les policiers de barbares, de factieux.
Surtout, c'est que dans son programme, c'était supprimer la BAC et remettre que des policiers en tenue. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'une force de frappe, entre guillemets, d'action, d'interpellation discrète. Et souvent, les BACEUX, comme on appelle ça, c'est l'antichambre des collègues qui partent sur des services plus spécialisés. Le RAID, la BRI, la DGSI, etc. En fait, c'est l'école de la rue. On apprend à avoir des indicateurs, on apprend à monter des petits dispositifs comme ça. C'est très intéressant. Et c'est ce qui fait que ces collègues-là ont un petit supplément d'âme par rapport aux autres policiers, parce qu'on appelle ça entre guillemets des chasseurs. Oui, ils ont cet instinct de moi j'ai été scotché dans des stages où j'avais des anciens qui disaient lui il va faire une connerie, voilà. Et donc on suivait à distance, et effectivement il allait passer à l'acte, soit il allait piquer un autoradio ou il allait voler. C'est comme ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est le sixième sens, l'instinct des policiers.
Voilà, oui. Absolument. Et on leur rend hommage évidemment, comme tous les jours, Louis, aux policiers
qui sont mobilisés demain
sur le terrain.
Il y a le flair du douanier, l'instinct du policier.
Cortèges, puisque vous allez évidemment manifester demain dans les cortèges. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. On parle de cette grande mobilisation qui s'annonce pour demain. On fait le point sur les transports, ça sera très bloqué. Et puis aussi sur les revendications et sur ce que le gouvernement peut lâcher ou pas. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France retient son souffle avant le deuxième round des manifestations contre la réforme des retraites. Plus d'un million de personnes attendues dans la rue et une première ministre qui s'arc-boute et annonce que les 64 ans ne sont plus négociables. À quoi cela sert de braquer ainsi des Français massivement convaincus que la réforme est injuste? On va en débattre ce soir avec mes invités. Les transports seront quasi bloqués, on fera un point. On verra aussi que le renseignement territorial prévoit des cortèges dans 240 points du territoire, avec un œil rivé sur les Black Blocs et l'ultra-gauche. On verra les villes où il y aura le plus de monde. C'est vraiment la France des sous-préfectures qui va se mobiliser demain. On fait le point dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h sur Europe 1 et sur CNews. Sur CNews et sur Europe 1, une marche blanche se tiendra ce dimanche à Épinal dans les Vosges en mémoire de Lucas, l'adolescent de 13 ans s'est suicidé le 13 janvier dernier après avoir été harcelé à l'école en raison de son homosexualité. 4 adolescents seront jugés au printemps. La mère de Lucas s'est exprimée aujourd'hui pour la première fois devant les caméras. Elle pointe du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire dans ce drame. Écoutez-la.
Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. J'aurais pu faire plus. Il aurait pu faire plus.
Il aurait dû faire plus.
Oui. Oui. Ah oui, clairement. Ah oui. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi.
Plus d'un million de personnes attendues dans la rue, je vous le disais, demain pour la deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Un texte débattu depuis ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Le 19 janvier dernier, 1 200 000 personnes s'étaient rassemblées, 2 millions selon la CGT. Et justement, pour encadrer ces cortèges, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, 4 000 dans la capitale. On fait le point avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1 000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés, mais je veux constater que les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports d'un point de vue de sécurité jouent parfaitement le jeu.
Un accord a été trouvé entre la France et l'Australie pour armer l'Ukraine. Les deux pays se sont mis d'accord pour fournir des obus de 155 mm à l'armée de Zelensky, annonce faite par le ministre des Armées Sébastien Lecornu aujourd'hui. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé la semaine dernière la livraison de chars à Kiev pour faire face à l'armée russe. Enfin, Anthony Blinken est en visite à Tel Aviv. Le secrétaire d'État américain a de nouveau appelé Israéliens et Palestiniens au calme. Cette visite d'Anthony Blinken était prévue de longue date. Elle intervient dans un contexte particulièrement tendu au Proche-Orient. Voilà pour les rappels des titres de l'actualité. Il est 18h02, on est en direct sur CNews. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Éric Revel est journaliste. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise. Bonsoir Monsieur Woerth.
Bonsoir.
Fin connaisseur des réformes des retraites. Vous en avez mené une en janvier. Enfin,
2010,
c'est bien ça. Nous sommes avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir, monsieur Villedieu. Et Marc Toiti, économiste et auteur d'un livre qui s'appelle Récit 2, bienvenue dans le monde d'après. D'abord, on se focus sur les manifestations de demain. Plus d'un million de personnes dans la rue. À quoi faut-il s'attendre? La réponse avec Sandra Buisson et on engage le débat.
Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1 voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heurts en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
Fabien Villedieu de Sud Rail, vous pensez être plus nombreux que le 19 janvier dernier, dans la rue, demain?
Je l'espère en tout cas. Après, c'est vrai que j'ai vu la note, hein. Ils avaient fait une note, ministre de l'Intérieur, sur la participation qu'ils pensaient pour le 19. Ils avaient 1750 000, bon, finalement on était quasiment le double, on était à 1,2 million. Bon, voilà, ils disent un peu plus d'un million. Donc, si on part dans la même philosophie, on se rapprochera peut-être du 2. En tout cas, voilà, le cap du million, il faut le passer. Mais en dehors du fait qu'il faut passer ce million, parce qu'il y a quand même un cap symbolique, hein, parce qu'on dit souvent oui, mais ça a déjà été fait. Enfin, c'est pas fait si souvent que ça. Hein. Ça a été fait, bon, sur la réforme en 2010. Ça a été fait en 95 une fois. Voilà, donc des moments où on arrive de mettre plus d'un million de personnes dans la rue avec les problèmes, les difficultés. Et d'ailleurs, j'invite les gens, je dis, enfin, la vie, c'est pas Paris, quoi. Il y a énormément de villes de province.
Toutes les villes de province.
Énormément de villes. Non, je dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui sont en Île-de-France et qui disent, oula, pour aller à Paris, ça va être compliqué. Enfin, il y a des manifs partout. Il y en a à Melun, il y en a à Montargis, il y en a à Sens, il y en a partout. Généralement, c'est des grosses manifestations où il y a une super ambiance, où quand vous y allez, enfin, moi, les manifestations que j'ai, tout le monde a une patate de dingue, quoi. Voilà. Alors, on monte les casseurs, tout ça, mais ça, c'est un épiphénomène. Les trois quarts des gens ne le voient même pas. D'abord, c'est limité à quelques villes. Voilà. Des grandes villes. Et puis, par ailleurs, quand vous êtes à Paris, dans les cortèges, les gens sont même pas au courant, ils sont au courant parce qu'ils voient dans les médias. Mais autrement, vous faites toute la manifestation, tout se passe bien, il y a une bonne ambiance. Venez aux manifs, c'est très important.
Éric Woerth, est-ce que le gouvernement peut reculer face à la mobilisation si elle est de plus en plus forte?
Bien sûr que non. C'est l'intérêt général du pays, c'est l'intérêt des retraites, c'est l'intérêt des jeunes. Enfin, on va continuer à l'expliquer. Enfin, la majorité, le gouvernement vont évidemment continuer à inlassablement l'expliquer. C'est jamais facile à prendre, ce type de décision. Honnêtement, je n'ai jamais vu un gouvernement être heureux de voir autant de manifestants, autant de personnes qui rejettent une réforme. Et pourtant, c'est l'intérêt public, c'est l'intérêt d'ailleurs des manifestants eux-mêmes, c'est l'intérêt de leurs enfants.
Ah, ils en sont pas tout à fait convaincus de
leur
intérêt.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils ont raison. C'est pas pour ça qu'ils ont raison.
Non, mais quand on a un million de personnes dans la rue, ça vous fait pas réfléchir?
Il y a des moments où on rejette parce qu'on se dit personnellement, j'ai pas envie de travailler plus, etc. On connaît évidemment ceux-là et ils ont le droit de le penser. Heureusement, on est en France. Mais on a le droit de penser aussi qu'un modèle par répartition de retraite, ça a besoin d'être sauvegardé, ça a besoin d'être adapté à la situation démographique, à la situation économique. Sinon, ça ne peut pas vivre et on ne peut pas projeter vers le futur. Et c'est un modèle de solidarité entre les générations. Mais et ça, tous ceux qui pensent pouvoir le réformer autrement... Oui, mais c'est toujours injuste. C'est un mot qu'on emploie à tort et à travers.
Ah bah non,
il y a toujours plein d'injustices. Il y a moins d'injustices dans les retraites que d'injustices dans la vie, dans la carrière professionnelle. Il y a déjà à l'intérieur du modèle de retraite beaucoup de dispositifs de toute nature, extrêmement précis, qui réduisent cette injustice entre les hommes et les femmes, les carrières, etc., etc., la pénibilité. Il y a déjà beaucoup de choses que n'ont pas la plupart des autres pays entre nous. Le gouvernement en a ajouté d'autres. Il y a sur les 18 milliards, je citerai pas beaucoup de chiffres, mais enfin sur les 18 milliards qui sont attendus pour équilibrer le système en 2030, il y a 6 milliards qui sont redistribués pour essayer d'augmenter la justice dans le système.
D'accord. Alors, Fabien Villedieu, vous n'êtes pas d'accord, évidemment, avec Éric Woerth?
Oui.
Alors, moi, c'est un euphémisme, mais allez-y, développez vos arguments.
C'est pas uniquement que les gens, ils n'ont pas envie de travailler plus, alors même si ça en fait partie, c'est que fondamentalement, ils trouvent que c'est pas juste. Ils trouvent que c'est complètement injuste et qu'il y aurait d'autres possibilités. Enfin, la politique, c'est pas uniquement, autrement, on fait qu'un seul parti et puis voilà, on s'embête pas avec tout ça. Voilà, il y a d'autres possibilités qui sont faites avec d'autres choix en termes de ressources.
Il y en a pas.
Et ça, bah écoutez, c'est pas uniquement moi qu'il faut convaincre, mais les gens ils ne sont pas convaincus là-dessus. Et par ailleurs, à cela se rajoute autre chose, c'est qu'il y a un sentiment, un attachement viscéral à notre système de retraite. Les Français sont d'accord sur le fait que, même si notre système de retraite a sûrement des défauts, ils pensent quand même qu'on a le meilleur système de retraite au monde. Et ils en sont profondément attachés. Bah alors, profondément lâchés, et c'est pour ça qu'ils se battent.
C'est un paradoxe.
Ils se battent et ils se défendent. Par contre, je vous ai pas coupé. Alors, non, je sais qu'à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, vous aimez bien vous couper, mais moi, je trouve ça correct de pouvoir développer, voilà. Ils sont profondément attachés à ce système-là. Et qu'on se dit quand même qu'il y a des moyens de financement. Il existe quand même. Enfin, on est la cinquième puissance mondiale. Voilà, il y a des possibilités de financement là-dessus.
Septième,
et effectivement.
Septième maintenant.
Septième puissance mondiale.
Huitième.
Bon,
on
dégringole là-dessus. Ça dépend peut-être des jours. C'est ça. Il y a 20 ans, mais bon, c'est pas grave.
Allez-y, terminez.
C'est comme le milliardaire. Des fois, le premier, c'est les Français. Après, c'est un mois après, c'est plus lui. Non, mais bon, voilà. Donc, il y a quand même des moyens. Il y a un attachement viscéral au système de retraite. Et je pense qu'aussi, voilà, c'est un combat. Enfin, moi, je trouve que c'est un combat noble. Hein. Oui. Les gens, ils se battent pour nos anciens. Ils se battent pour les jeunes. Moi, je vous dis, je me bats pour moi, mais je me bats pour ma femme qui est pas du tout cheminote et qui ne sera jamais cheminote. Et je me bats pour mes gosses. Voilà. Et c'est pas vrai, le truc catastrophiste. Oui, mais non, si on fait rien, on n'aura pas de système de retraite. On trouvera des systèmes de financement. Et si le gouvernement n'est pas capable de trouver des systèmes de financement autres que nous faire travailler plus longtemps, alors que les gens aussi ont du mal à bosser jusqu'à 64 ans. Pourquoi le carburant également de cette mobilisation, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se voient pas. Ils ont déjà du mal à se projeter à 62 ans et les faire bosser à 64 ans. Les gens savent que pour certains métiers, c'est vrai. Je suis d'accord, 64 ans, c'est possible. Mais dans énormément de métiers, vous prenez les caissières, vous prenez dans les gens qui bossent en 3-8, vous prenez toute une série de métiers et sur les histoires. Allez-y.
Allez-y, allez-y. Répondez.
Je vous laisse même. Mieux,
sur
je
les métiers
la
pénibles. Alors, vraiment
sur les métiers
là-dessus.
Pénibles.
Après, on fait
écoutez,
la
pause. Il y a un chiffre quand même qui est maintenant connu, qui est que 40%, près de la moitié, pas tout à fait la moitié, des personnes, elles partent avant l'âge légal de la retraite. Pourquoi ? Parce qu'on tient compte de la pénibilité. Il y a des gens qui ne pourront pas travailler plus longtemps. On le sait. Enfin, on le sait bien. On vit dans la même France que vous. On le sait bien. Tout le monde vit dans la même France. On voit bien qu'il y a des métiers qu'on peut pas. Et en même temps, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une prévention pour tout cela. Tout ça est aussi assez bien construit. La pénibilité, c'est plutôt bien construit. Il faut l'améliorer, ce sera amélioré. Les carrières longues,
ah bon
c'est
amélioré. Ça sera amélioré quand ? À l'Assemblée ? Vous allez bouger ?
Non, mais dans le texte même. Sur les carrières longues, dans le texte même, aujourd'hui...
C'est 44 ans de cotisation pour les carrières longues et 43 pour les autres.
Mais non, dans un certain nombre de cas. Mais il y a deux critères. On est en train de découvrir des trucs qui ont 50 ans. Il y a deux repères. Il y a l'âge et la durée de cotisation. Il faut avoir atteint l'un et l'autre. Si vous avez, voilà, c'est le système français, il est comme ça parce que c'est plus juste que ce soit comme ça.
Allez, on fait une petite pause.
Si vous voulez vraiment vous battre pour vos enfants, et vous avez raison, et tout le monde trouve ça évidemment extraordinairement légitime, vous devriez vous dire, mais pour garantir ce système, il faut bien qu'il s'autofinance un moment. Voudriez qu'il soit financé par les marchés financiers et par la dette, éventuellement par les fonds de pension étrangers. Ce serait une drôle de manière de faire. Il doit être autofinancé. Et le déséquilibre entre le nombre d'actifs, le nombre... On dirait tout ça, c'est technique. Mais non, c'est pas technique, c'est la vie. Et c'est la vie du système de retraite. Et vous ne voulez pas le regarder en face.
On continue ce débat passionnant dans un instant avec Fabien Villedieu, Eric Woerth et nos invités. Dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, la Première Ministre a déjà fermé la porte à toute négociation sur l'âge 64 ans. Ça n'est pas négociable, dit-elle. À tout de suite. 18h16, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Eric Woerth, député Renaissance de l'Oise et qui a porté la réforme des retraites en 2010, Fabien Villedieu de Sudrail, Marc Toiti, Louis Dragnel, Eric Revel. Hier, Elisabeth Borne a dit il n'est pas question de négocier sur les 64 ans. Je ne sais pas à quoi ça sert de braquer ainsi les Français. D'ailleurs, on ne négocie même pas là-dessus. Écoutez les réactions des Français. Justement, on leur a posé la question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de dire on ne négocie pas sur ces âges de départ? Écoutez leur réaction.
C'est peut-être dur de le dire comme ça. Peut-être qu'il faudrait négocier un peu plus, être plus souple, parce que c'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses.
Je crains que la pression de la rue ne l'oblige peut-être à changer d'avis.
Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la réforme, mais si elle dit que ça sera sans équivoque, c'est un peu... Ça paraît un peu radical, quoi.
Pour moi, il faut qu'elle tienne. C'est juste une question de temps, que de toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera dans 3-4 ans, il va y avoir des réels problèmes au niveau de la retraite. Donc pour moi, c'est une mesure qu'il faut prendre maintenant.
64 ans, ce n'est plus négociable. À quoi ça sert de dire ça, Eric Woerth ?
Si vous posez une question à ces
Il y avait des pour et des contre, hein, vous
disant,
avez entendu.
En disant, oui, bien sûr, mais en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on n'en plus de vos pensions, parce que c'est, voilà, on vous versera moins de pensions, ou alors vous paierez plus d'impôts pour financer le modèle. Les gens diront non. Je veux dire, ils sont très, très attachés, et nous sommes très attachés au système de retraite. Mm-hmm. Et donc il faut évidemment lier quand même cet attachement à un peu l'idée que de temps en temps, il faut l'adapter. La Première ministre a eu raison de dire ce qu'elle a dit. Parce que c'est normal de mettre les choses sur la table, réellement. C'est un sujet tellement important qu'il faut que les choses soient claires et soient mises sur la table. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de négociation au sens strict du terme sur l'âge de la retraite, puisque... Les partenaires sociaux.
Ça a été imposé, oui.
Les partenaires sociaux ont dit tout de suite, avant même de commencer l'idée qu'il y ait une réforme des retraites, il n'y aura pas d'augmentation de l'âge, on n'en veut pas. Mm-hmm. Donc c'était assez clair. Donc vous ne pouviez pas aller là-dedans. Il y a eu évidemment un dialogue avec les formations politiques, il y a eu un dialogue avec les syndicats, et c'est très important qu'il y ait un dialogue.
À partir du moment où vous dialoguez en disant qu'on ne fera pas.
Mais ça s'est fait. Le président de la République avait présenté une réforme à 65 ans, avant l'élection mm-hmm. présidentielle. C'était dans son programme présidentiel. Et il a amendé, passant à 64 ans, avec une durée plus lente de montée mm-hmm. progressive en vigueur, pour tenir compte des discussions qui ont eu lieu depuis une bonne année maintenant.
Fabien Villedieu, ça vous donne du carburant, le fait qu'elle dise on ne négocie pas sur les 64 ans? Ça vous stimule?
Oui, après ça, c'est de la... on négocie pas sur l'élément essentiel de sa réforme. Voilà, c'est sûr que s'ils reculent là-dessus, c'est tout le sens de la réforme qui met à plat.
Donc pas de surprise.
Après, chacun est un peu dans son rôle. J'aurais tendance à dire, voilà, eux, ils vont pas commencer à dire, si vous êtes nombreux, on va reculer. Oh là là, ça pourrait nous inciter à être encore plus nombreux. Donc voilà, chacun est un peu de théâtre quand même là-dedans. Faut dire un peu ce qui est. Moi, je pense que le gouvernement peut reculer. Moi, j'ai la difficulté qu'il y a, c'est que j'ai vu des sondages là, qui sont sortis mmh. qui disent que 70% des gens, ça dépend lesquels.
68-70%, ils sont
à peu près 68-70% des gens qui sont.
Ça bouge pas, c'est extrêmement stable.
Ça bouge pas, voilà. Mais t'as aussi 70% des gens qui pensent que Macron va pas reculer. Voilà. Et pour moi, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans la fatalité, dans le fatalisme. Si effectivement vous êtes contre cette réforme, mais vous pensez que quoi qu'il arrive, parce qu'en face c'est des dingues,
Vous parlez quoi de qui là fasse, des dingues, c'est qui les dingues?
Des fois, je me dis quand même quand il y a des millions de personnes, des sondages qui sont dans la rue, voilà, et que personne ne bouge. Mais c'est quoi cette démocratie? La démocratie, c'est pas uniquement tu mets un bulletin de vote et puis hop, on se revoit dans 5 ans. Non, c'est aussi écouter les manifestants, la mobilisation, les mobilisations populaires. Enfin, c'est écouter le peuple quand même quand on est là aussi. Ils sont censés être là pour nous.
Donc, je dis pas
qu'il faut être une girouette à chaque fois, mais quand même, lorsque vous allez mettre 1 million de personnes, peut-être 2 fois 1 million de personnes dans la rue, enfin, faut quand même écouter la population, parce qu'autrement, si vous n'écoutez pas la population, enfin, c'est l'écœurement. On passe son temps à dire, les gens, ils vont pas voter, ils sont écœurés et tout, aussi parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, on nous écoute pas. Si on peut mettre 1 million de personnes dans la rue, enfin, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Oui, effectivement, c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais dans l'histoire, j'ai regardé dans toute l'histoire de France, depuis un siècle, c'est arrivé moins de 10 fois. Où on a mis plus d'un million de personnes.
Moins de Français aussi,
Marc,
c'est normal. Parce qu'on est beaucoup plus...
Ouais,
c'est pas que ça peut normal aussi. Mais moi, je pense que si Marc, je peux parler, simplement, c'est vrai que... Moi, je suis pour une réforme beaucoup plus profonde et surtout... Non, pas du tout. Moi, je pense que l'erreur qui est faite, c'est effectivement cet âge. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue syndical, si la CFDT avait annoncé, si vous maintenez cet âge, alors à ce moment-là, on rentrera dans le conflit. Si ça n'avait pas été le cas, déjà, il n'y aurait pas eu l'union syndicale, entre guillemets. Mais ensuite, surtout, le vrai enjeu, c'est de donner un degré de liberté. Je pense que c'est le vrai enjeu aujourd'hui qui est là, que ne comprennent pas les Français. On a déjà effectivement les trimestres à faire, mais si en plus, on bloque effectivement ce degré de liberté, on impose un âge, alors là, évidemment, les Français ne sont pas prêts à comprendre. Donc, moi, je suis pour, au contraire, faire cette réforme et puis après donner le choix et avoir une retraite en conséquence, bien entendu. Vous avez fait la réforme des retraites en 2010, vous vous souvenez? Je m'en souviens déjà à l'époque, je disais le même discours qu'aujourd'hui. J'ai fait attention parce qu'on tape sur une croissance de 2,5% et un taux de chômage à entre 5 et 7. Et on les a pas fait, ces 2,5% de croissance. Aujourd'hui, on fait la même erreur. Ce qui veut dire que les 10 à 12 milliards, on les aura pas. Et si je peux me permettre, vous savez qu'aujourd'hui, la retraite française, elle est déjà financée par les marchés financiers. Oui, pour une raison simple, c'est que c'est la dette publique qui la finance. Et qui achète cette dette publique? Ce sont les marchés financiers. Donc le problème est là, c'est que malheureusement aujourd'hui, il faut avoir une retraite qui soit beaucoup plus libre.
C'est pas les marchés financiers qui financent la dette.
Directement, mais si.
80% d'autofinancement. 80% sur les cotisations. Non, pas la dette publique, les dépenses de retraite. C'est 80%, c'est encore 80%. Donc c'est très très important que ce soit contributif. très important. C'est pas au marché financier de le, bah, de le faire. Et puis, la retraite à la carte, tout le monde a envie de partir un peu quand il veut. Sauf que, quand même, les actifs qui payent votre retraite, ils ont le droit quand même de dire, à un certain âge. Parce qu'il y a une durée de vie derrière. C'est 20 ans, 25 ans à la retraite. Derrière, il y a quelqu'un qui paye.
Mais pour donner la liberté, entre guillemets.
Tout ça, ça donne on dit des paramètres. Enfin, ça donne, c'est des paramètres de vie. Ça donne, à un moment donné, une durée de cotisation, parce qu'il y a des gens qui partent, qui rentrent plus tôt et qui partent. Bon. Et puis, il y a des gens aussi qui font des études. Il est assez logique que tout ça se soit à peu près équilibré. C'est plutôt bien équilibré aujourd'hui. Dans d'autres pays, ça ne pose pas ces questions-là.
Oui, mais on est en France.
Dans d'autres pays, bah oui, mais on est bien en France. Mais enfin, je comprends bien que la situation culturelle n'est pas la même en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie. Je le comprends bien. Mais les métiers sont les mêmes. Le rapport au travail peut être le même. Il va falloir qu'on travaille. Le travail, c'est pas quelque chose.
Mais vous nous trouvez feignants. Vous trouvez que les Français sont des feignants. C'est un peu la logique du gouvernement. Non, mais c'est intéressant.
Mais on a le droit de mettre en avant. Dès qu'on parle du travail en disant quand même le travail c'est une valeur cardinale, j'avais attaqué les gens pour leur dire qu'ils étaient des paresseux. Je pense que le travail est une donnée qu'il faut rendre plus positive, même après le Covid. Mais ça veut bien dire que aussi les entreprises doivent modifier les conditions de travail. On doit investir pour robotiser, pour empêcher la pénibilité. On doit être capable dans les systèmes de formation, de provoquer des reconversions professionnelles. On fait peut-être pas nécessairement la même chose à 30 ans qu'à 50 ans ou 60 ans. Des seniors au travail, ça veut dire aussi qu'on modifie le regard de la société sur le travail. Et ça, c'est absolument fondamental. Mais globalement, ça veut dire quand même qu'il faut travailler. On peut pas avoir un système de redistribution aussi puissant que le système français, avoir des services publics qui ont besoin toujours, évidemment, de moyens, sans travail et sans travailler. Et nous avons besoin de travailler plus.
Vous faire écouter le témoignage d'un déménageur, parce que ça, c'est un métier pénible. Vous allez nous expliquer ce que ça va lui apporter, à lui, cette réforme. Écoutez-le, il répond à nos questions.
On a souvent des problèmes de l'imbago. J'ai eu souvent aussi des calculs. Bon, après ça, c'est des calculs, c'est au niveau de la nourriture. Mais honnêtement, les l'imbago, c'est énorme. On prend des cachets de courtisane, on est vraiment ensuqué. On ne doit pas prendre le volant pendant une semaine. Ça nous, voilà, c'est vraiment très, très, très pénible, on va dire. Je pense pas qu'on pourra arriver à l'âge de 64 ans. C'est impossible. Je n'ai jamais vu une personne à l'âge de 54 ans ou de 58 ans en tant que déménageur. Je n'ai jamais vu. On va sortir dans les rues demain. On sortira.
Voilà pour ce témoignage de déménageur Fabien Villedieu. Vous pensez à tous ces métiers pénibles.
Le fait de porter les charges lourdes a été retiré des critères de pénibilité. Au début, c'était le cas en 2015 et ça a été retiré en 2017. Et par ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil, c'est que souvent on dit oui, les conducteurs de train, c'est pas plus dur parce qu'on partait plus tôt. C'est pas plus pénible que d'autres métiers, en tout cas par exemple chauffeur de bus, un truc comme ça. Ce qui est vrai, moi je l'admets, il y a un même niveau de pénibilité. Et vous savez qu'il y a des conducteurs de train aujourd'hui à la SNCF qui sont des contractuels, donc qui sont au régime de droit privé. Et ben eux, à part les conducteurs du fret qui bossent que la nuit, ils n'enclenchent pas de points de pénibilité. Ils n'ont pas de points de pénibilité. Donc en fait, t'as un boulot, tu te lèves à 3 ou 4 heures du matin, t'as des responsabilités dingues. Enfin bon, quand vous conduisez un train, vous avez quand même 2-3 petites responsabilités. Mais vous n'enclenchez, vous posez le samedi, le dimanche, vous n'enclenchez pas de points de pénibilité. Voilà. Et c'est parce que beaucoup de Français savent qu'ils ont des métiers qui sont... Enfin, faut pas forcément être le métier le plus dur du monde pour se rendre compte qu'il y a plein de métiers pénibles et qui n'engrangeront pas forcément de points de pénibilité qui vous permettront de partir plus tôt.
Enfin, peut-être parce que pas de pénibilité à prendre. Je rappelle qu'on travaille quand même 35 heures, c'est-à-dire plutôt moins que d'autres pays, qu'il y a des manières de récupérer, qu'il y a pas. On peut travailler un jour un samedi et puis récupérer. On peut travailler une nuit. Tout ce qui est travail de nuit a été mieux traité qu'aujourd'hui. Dans la réforme, il faudra moins de nuit pour justifier un départ plus tôt. Tous ces critères de pénibilité, les postures physiques, les ports de charges lourdes, les vibrations, l'exposition à des risques chimiques, des choses comme ça, sont reprises dans la visite médicale qui est prévue pour faire en sorte qu'on puisse partir plus tôt si on est atteint dans sa propre santé, dans son propre physique, pour partir plus tôt. C'est pour ça qu'il y a une visite médicale qui est prévue à un moment donné. Et ça ne peut être que sur ça ne peut être une constatation objective. Si c'est pas une constatation objective, alors c'est très injuste. Vous recréez les régimes spéciaux, vous recréez des métiers, vous recréez des statuts, et ça c'est pas possible. Mais comment fait le déménageur allemand? Comment le fait le déménageur belge? Le déménageur italien?
Il part à 64 ans.
On doit évidemment On doit, ben oui, il part plus tard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être usé physiquement prématurément, et là on peut partir plus tôt. Et c'est, il y a plein de critères pour ça. Et ce sera évidemment conforté dans cette réforme. Et puis aussi, il faut que les métiers soient plus aidés par la technologie. On voit aujourd'hui des déménageurs qui cèdent de plein de matériel. Mais il y a aussi, on peut aussi faire ce métier différemment. Il peut y avoir une reconversion professionnelle. On peut faire un autre métier, mais le faire différemment.
Autre métier, c'est compliqué.
Ou travailler dans une grande entreprise de déménagement, probablement différemment. On peut pas vivre plus longtemps, ce qui est le cas aujourd'hui, et avoir une temps de vie plutôt en bonne santé, assez long à la retraite, et demander aux actifs de le financer quand il n'y a plus qu'un 1,5 actif qui le fait. Il y a un moment donné, cette équation, on ne sait pas la résoudre. Et si on ne regarde pas le sujet en face, mais vraiment en face, et qu'on se dit, il suffit de taxer les super dividendes, il suffit d'aller prendre l'argent chez l'autre. C'est toujours chez l'autre. Il suffit d'aller prendre l'argent chez l'autre. Et ben non, prendre l'argent chez l'autre, ça ne marche pas pour les systèmes de retraite.
Pour répondre au monsieur là, qui est déménageur, moi je trouve que la loi est particulièrement pénible et cynique. Parce que en fait, ils auraient pu mettre le port de charges lourdes comme étant un des critères de pénibilité. Ils n'ont pas voulu le remettre. Ils ont dit, vous passez une visite médicale, et si effectivement vous êtes cassé par le boulot, le médecin, et donc vous êtes inapte au travail, vous aurez le droit à gagner un départ à la retraite plus tôt. Mais vous pouvez aussi avoir trouvé ça excessivement pénible, prendre des médicaments et continuer à bosser. Mais si le docteur ne vous considère pas comme inapte, vous partirez à 64 ans. Enfin, un déménageur qui ne se fait pas, où le médecin lui dit pas vous êtes cassé par le boulot, bah, le déménageur il bosse jusqu'à 64 ans. Mais c'est pas parce que le médecin vous descend pas, vous ne met pas inapte, que pour autant c'est pas pénible. Vous imaginez bien à 62, 63 ans monter une armoire normande sur 3 étages. Voilà. Et la difficulté qu'il y a, c'est qu'on aurait effectivement dans les entreprises des capacités de reconversion, comme il existe peut-être dans certaines boîtes. Moi, je vois déjà à la SNCF, on a des difficultés de reconversion. Et je vous parle même pas de la difficulté qu'il y a, c'est que souvent, ces métiers pénibles sont aussi des métiers qui sont un peu mieux rémunérés, ce qui a une certaine forme de logique. Ce qui fait que les gens ne se déclarent pas, ne vont pas voir le médecin, parce que s'ils se font, moi je vois chez les conducteurs, descendre de machines, c'est-à-dire qu'ils ne conduisent plus les trains, ils perdent 1 000 euros. Et ce qui est le cas dans énormément de métiers.
Et aujourd'hui, plutôt que tout le monde.
Et aujourd'hui, bah, c'est le moins
de moyenne, non, les conducteurs plutôt que tout le monde.
C'est pas en moyenne, 58 ans.
Aujourd'hui, ils partent à 60 ans. Aujourd'hui, les cheminots, ils partent à 60 ans.
Oui, les Français, ils partent à 63.
Bah, la plupart des Français, ils sont cassés à 60 ans et effectivement, ils galèrent pour aller jusqu'à 63 ans, mais ils ne travaillent pas jusqu'à 63 ans. Vous le savez très bien que personne en France ne travaille jusqu'à. La moyenne, c'est pas de travailler jusqu'à 63 ans.
Voilà.
Moyenne de départ. Le problème, c'est que les gens ne travaillent plus déjà.
70% des Français qui liquident leur pension sont en emploi. 70% des Français.
Ce que je veux juste essayer d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne jouent pas le jeu des seniors. C'est-à-dire que dans un monde idéal, un monde de bisounours, effectivement, quand vous avez des métiers pénibles, et ben effectivement, le DRH vient vous voir et dit voilà, je te propose un autre métier, voire avec une même rémunération. Mais ça n'existe pas. Dans la plupart des cas, et ben hop, vous êtes inapte. Donc c'est dehors, inaptitude, vous êtes viré, et vous êtes viré, reclassé à l'extérieur de l'entreprise. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous perdez, on vous propose des postes.
Je vais être d'accord avec vous sur un point.
On vous propose des postes où vous avez des baisses de rémunération et des baisses de rémunération.
Non, je suis d'accord avec vous. Dernier mot d'Éric Woerth. Je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que...
Attention, c'est le deuxième point, on est d'accord.
Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On va les mettre sur nos comptes pénibilité. Je suis d'accord pour dire qu'il faut que les entreprises soient partie prenante d'une réforme comme ça. Quand on a monté de 60 à 62, je rappelle que c'était 65, tout le monde l'a oublié, mais avant Mitterrand, avant 82, c'était 65 ans, vous vous rendez compte? Donc, il faut absolument que les entreprises soient partie prenante, c'est-à-dire qu'elles organisent le travail en fonction de l'âge, que les systèmes de formation fonctionnent, que la gestion des carrières fonctionne. Dans les grandes, comme dans les petites, dans les grandes, ça marche toujours. Dans les petites aussi entreprises, il faut vraiment que la vie de la société bouge en fonction de cela. Et ça, c'est sans doute une des conditions de la réussite de ce type de réforme.
Allez, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri, 18h31 sur Europe 1 et sur CNews.
De grévistes dans les écoles demain pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, un syndicat prévoit au moins 100 écoles fermées. Une manifestation également suivie à la SNCF et à la RATP. Le fonctionnement du transport aérien et ferroviaire sera fortement perturbé. Du nouveau, dans l'enquête de l'attaque d'Al Jazeera, l'auteur présumé va être placé en détention provisoire selon la justice espagnole. L'homme est un Marocain de 25 ans. Il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion depuis le mois de juin. Un sacristain a été tué, un prêtre grièvement blessé dans cette attaque à la machette. Et puis des recherches en cours en Australie. Objectif, retrouver au plus vite une capsule radioactive. Elle est introuvable depuis la mi-janvier. Elle serait tombée d'un camion alors qu'elle était transportée vers un lieu de stockage. Les autorités sanitaires mettent en garde contre toute manipulation de cet objet.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. Une petite pause. On continue à débattre des retraites avec Fabien Villedieu, Marc Toiti, Eric Revel et Louis Dorin-Agnel. On verra tiens, ce qui se passe du côté de la SNCF. Prévision de trafic assez sombre. On partira en direct de la gare Montparnasse. A tout de suite dans Punchline. 18h37 en direct sur CNews et Europe 1 pour Punchline. On va parler de ce qui va se passer demain pour les transports en commun. Évidemment, beaucoup de perturbations. On va rejoindre nos équipes à la gare Montparnasse. Solène Boland, bonsoir. Vous êtes au milieu de la gare avec Jules Bedos. Quelles sont les prévisions de trafic pour demain, Solène ?
Écoutez, Laurence, la journée s'annonce noire dans les transports. La SNCF annonce 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 sur 2 sur l'axe est et sud-est, 1 sur 4 sur l'axe atlantique. 2 trains sur 5 circuleront du côté des Ouigo, 2 sur 10 pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, gare Montparnasse, les voyageurs ont pris leur disposition. Certains ont même décidé d'avancer leur voyage. À Paris, les transports en commun seront aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14, soit les lignes automatiques de métro, circuleront normalement. D'autres seront uniquement accessibles aux heures de pointe avec un trafic réduit. Enfin, comptez en moyenne un train sur dix, pour les RER C, D et E et un train sur trois, cette fois, pour les RER A et B.
Merci beaucoup. Solène Boulan et Jules Bedos, gare Montparnasse. Ça va être galère, hein, Fabien Villedieu, de Sudrail, de pouvoir voyager demain. Pensez aux voyageurs ou pas ?
Eh ben, je ne pense qu'aux voyageurs. Enfin, moi, c'est mon métier, hein, le service public, c'est les voyageurs. Ce n'est pas uniquement les jours de grève où on aime bien en parler, mais les voyageurs, ils galèrent tout le temps, tous les jours. Et, par exemple, aujourd'hui, ce n'était pas la grève et j'ai pris un train et c'était la galère parce qu'effectivement, il manque du matériel. Et ce qui fait que là où tu dois avoir un double train, tu n'en avais qu'un simple, donc tout le monde se retrouvait entassé. Donc la galère, c'est tous les jours. On en parle généralement les jours de grève, mais, voilà, mais je pense aussi aux gens qui n'ont pas envie, parce que la galère... demain, enfin, il faut se projeter sur la galère quand tu seras à 62, à 63 ans sur le quai à attendre ton train pour aller bosser. Voilà, ça c'est la vraie galère. En vrai, la vraie galère, c'est pas demain. La vraie galère, c'est quand tu auras 63 ans, ouais. Si la réforme passe et en disant, ah oh là, finalement, si je m'étais mobilisé avant, eh ben là, à 63 ans, je serais en train de m'occuper de mes petits enfants ou je serais en train de faire la grasse mat parce que c'est aussi ça, la retraite, pouvoir faire la grasse mat, pas être obligé de se lever à 5-6 heures du matin, voilà, pour prendre son train. Se précipiter à aller mettre les gosses, enfin le quotidien des Français qui est où t'es à 100 à l'heure.
Il n'y a pas les gosses, on les met pas à l'école. Hein.
Non, mais
bon, ça dépend. Vous savez, ça c'est un petit peu décalé.
Vous qui êtes pas loin quand même de ce cap-là, de prendre.
Exactement. C'est pour ça que je me renseigne. Monsieur Villedieu, moi j'ai une question très simple à vous poser. Bon, là il y a une fin de non-recevoir de la Première ministre. Hein, parce que quand elle dit c'est plus négociable les 64 ans, d'ailleurs ça laisse sous-entendre que ça l'a été. Parce qu'entre plus et pas, c'est pas la même chose. Mais elle dit c'est plus négociable. Bon, vous m'avez énervé, donc. Mais le mouvement, il s'arrêtera jamais alors. Parce que si c'est plus négociable que le gouvernement ne retire pas cette réforme à 64 ans, vous, vous allez continuer de mobiliser avec le risque, je le souhaite ou je ne le souhaite pas, vous choisirez, que ça s'étiole, que ça diminue. Est-ce que pour vous, la question du pourrissement de ce mouvement social, au-delà du nouveau succès de demain, évidemment, ce n'est pas une question qui taraude les syndicats et leurs leaders.
Alors, vous êtes taraudé ou pas ?
Évidemment. Je pense que le gouvernement il joue la carte du pourrissement. Voilà. Et de dire... le 19, ils avaient tous été en Espagne. Voilà, ils se sont dit, si le 31, on repart tous dans un autre pays, ça va se voir. Donc, ils ont trouvé autre chose.
Baden, ça le ferait pas.
Voilà, ils ont trouvé autre chose pour ne pas parler. Je crois qu'ils font une conférence de presse à 14h, le jour de la manifeste. Voilà. L'essentiel, c'est de dire que c'est un non-événement et qu'eux, ils jouent la carte de bon, c'est un mauvais moment à passer et que, mais de toute façon, ça va quand même passer. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que dans un certain nombre de secteurs, on pose la question d'une grève de 48 heures, on posera ça en AG. Moi, je serai en Assemblée Générale, je proposerai aux cheminots voilà, de faire une séquence de grève le 7 et le 8, voilà, y ça. Compris pour cranter un petit peu la mobilisation.
Mais Fabien, Villedieu, 7 et 8, donc 48 heures, mais reconductible ? C'est-à-dire que là, on part sur un conflit long ou pas ?
Non, on proposera le 7 et 8, voilà.
Okay.
Et on verra, de toute façon, on verra avec les cheminots, en Assemblée Générale, on verra s'il y a d'autres secteurs professionnels, parce que les cheminots nous disent et me disent on ne peut pas se battre tout seul, on est prêt à jouer à notre partition, mais par contre, il est hors de question qu'on soit, comme en 95 ou en 2019, un peu la locomotive. On veut qu'il y ait d'autres locomotives.
Sans
voilà.
Jeu de mots.
Sans jeu de mots, évidemment. Et voilà, en fonction de tout ça, parce qu'effectivement, il y a un risque qu'on enchaîne les grosses manifs, mais que ça ne bouge pas beaucoup du côté du gouvernement, même si au bout d'un moment, ça risque quand même d'être compliqué. Voilà. Parce que quand vous mettez plus d'un million de personnes, enfin, je ne peux pas croire que c'est un épiphénomène et que ça leur passe comme
2010,
ça.
Il y a quand même... Vous aviez Eric Woerth devant vous. 2010, ça a duré des semaines, des mois.
14,
et finalement 14, bah là, j'ai
14 jours de
passé de 60 à 72.
C'est vrai, et le gouvernement, d'ailleurs, s'en est pas remis. Et en 2012, il a sauté.
Et peut-être que Nicolas Sarkozy l'a payé pour sa réélection.
Et ils ont payé la facture 2 ans après. Voilà. Donc, du coup... Il y a quand même des... on verra. Moi, je suis pas Madame Soleil. On verra ce que c'est, ce qui se passera.
Envisager, par exemple, de continuer les mobilisations une fois que le texte sera voté.
Alors, il sera voté, je crois, au mois de mars.
Absolument.
Donc, du coup, j'espère qu'on aura gagné avant. Parce que ça veut dire que...
voilà, sinon, ça va être long.
Voilà, ça va être long. Et puis, à chaque fois, on perd de l'argent. Voilà, moi, le 19, j'ai perdu 100 balles. Là, je vais reperdre 100 euros.
Vous avez des caisses de grève qui vont vous rembourser ça ou pas ?
Ouais, mais alors, pour l'instant, elles sont vides. Alors, les caisses de grève, oui, moi, de ce que je me suis renseigné...
La CGT avait lancé une cagnotte il y a quelques semaines. Elle était à 200 ou 250 000 euros.
250 000 euros,
oui. Ouais, mais ça fait pas beaucoup parce qu'il y a quand même des milliers...
Non, mais je sais bien.
En fait, il y a des milliers de grévistes. Voilà, et donc 200 000 euros pour une personne, c'est énorme, mais 200 000 euros pour des milliers de grévistes, ça fait 10 balles, quoi. Voilà, donc du coup, on n'en est pas là. Je sais qu'il y a une stratégie de mettre en place des caisses de grève pour pouvoir tenir tout ça. Voilà, est-ce que c'est la forme que ça prendra ? Bon, moi, déjà, je dis, il faut réussir la journée de demain.
Okay.
Mettez-vous en grève, venez au manif.
Marc Toiti, je vais juste vous faire réagir, mais j'aimerais vous faire écouter François Ruffin, député de l'ANUPS, qui dénonce l'extrémisme de la réforme. Et il parle aussi des fonds de pension, parce que vous disiez voilà, qu'aujourd'hui, c'est déjà financé de cette façon. Écoutez François Ruffin, tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
C'est que vous êtes au service de la finance plutôt que de la France. C'est que vous êtes au service aujourd'hui, avec ce projet, très clairement des fonds de pension plutôt que des salariés français, contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons. Vous vous radicalisez. Vous vous radicalisez. Vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez.
Voilà, la France insoumise qui dit au gouvernement qu'il se radicalise.
Non, le problème, c'est qu'en fait, on a un problème de culture économique historique en France. Donc, bien entendu, c'est facile de dire, voilà, on va faire payer ici les riches, etc. Le gros problème qu'on a, c'est que, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a un coût énorme de cette grève sur l'économie française qui n'en a pas besoin, parce qu'elle est déjà quasiment en récession. Donc là, il y aura des entreprises qui peuvent effectivement déposer bilan ou alors, ou même faire du chômage technique, etc. Après, le fait de dire, on va faire payer les riches, Pierre, Paul ou Jacques, etc. Non, aujourd'hui, moi, je suis d'accord, il faut sauver la retraite par répartition. Mais pour la sauver, il faut effectivement l'aider. Et donc, le drame, c'est en imposant cet âge, effectivement, je dirais, légal de la retraite, où, effectivement, on casse ce lien social. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas prendre le gouvernement peut prendre le risque de plusieurs journées de grève comme ça, successives, parce qu'il y a autre chose derrière la retraite. Il n'y a pas que la réforme de la retraite qui pose problème. Il y a tout l'enjeu aujourd'hui d'un ras-le-bol global lié effectivement à cette baisse du pouvoir d'achat, cette inflation qui est là. Beaucoup de Français qui souffrent énormément. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète. Mais par contre, je pense que le fait de dire, ben voilà, on va faire payer les milliardaires ou autres, c'est pas ça globalement. À mon avis, ça, c'est pas une bonne stratégie. Je pense que la bonne stratégie, c'est aujourd'hui de sauver la retraite par répartition. Sinon, dans quelques années, évidemment qu'elle va exploser. Le problème, c'est que le gouvernement, enfin, attention, moi, j'ai trouvé il a eu du mal, Eric Woerth, effectivement, il ramait un petit peu, effectivement, parce que.
C'est un peu dur.
Non, mais non, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce problème quand on est face à des personnes.
C'est difficile
qui
de
Non, quand on est
C'est toujours facile de. Non, mais objectivement, je prends la défense d'Eric Woerth qui n'est pas là.
Mais c'est tellement
plus facile de critiquer cette réforme.
Exactement.
Non, mais intellectuellement.
Non, mais moi, c'est pour ça que je dis, je suis pour
si on faisait un jeu de rôle, moi, j'apprécierais beaucoup. Moi qui trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens, si on faisait un jeu de rôle, c'est c'est tellement plus facile critiquer cette réforme. Alors que c'est vrai que moi je vois, pour moi elle est assez indispensable. Et quand tout à l'heure il y a la question se posait, est-ce que Elisabeth Borne a eu tort de fermer la porte, de dire ça y est, c'est fini les négociations? En fait, les négociations, elles ont eu lieu pendant 6 ans, matin, midi et soir, où il y avait des réunions avec les partenaires sociaux, les partis politiques.
Ils ont dit depuis le départ, les partenaires sociaux, qu'ils n'en voulaient pas.
D'accord, mais attendez, du report de la réforme. Je suis pas là. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron sur plein d'autres sujets, mais sur cette question de la réforme des retraites, il s'était engagé à la faire. On en avait déjà parlé. On a déjà débattu de ça. Est-ce que vote vos soutiens à la réforme des retraites? Et ensuite, il y a eu des consultations. Non, mais c'est pas la surprise du chef sortie du chapeau. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle.
Par exemple, le syndicat était contre. Donc,
non, mais
ça
a
commenté ce chiffre.
On est d'accord.
Mais attendez, Marc Toiti,
le jour où j'ai une réforme beaucoup plus puissante
qui est soutenue par les syndicats, appelez-moi.
Mais il y a des syndicats
là, on a donné le bâton pour se faire taper dessus.
Et puis surtout, je suis très souvent entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, une réforme des retraites qui est plébiscitée, où on voit les syndicats qui applaudissent,
ça demain, ça n'arrivera pas.
Je n'ai jamais vu ça.
Quitte à avoir des grèves, autant faire une vraie réforme. Parce que dans 4-5 ans, on va faire une autre réforme.
On est entièrement d'accord, Marc Toiti.
Sur 67 ans, là, monsieur Villeneuve. Éric Revel, allez-y.
Que Sudrail a soutenu.
Aucune.
J'ai un point où je suis d'accord avec vous, et du coup, c'est ce qui me fait dire qu'on peut gagner. C'est qu'en fait, en dehors de l'histoire des retraites, des mobilisations et tout, enfin, il y a un contexte qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on sort d'une séquence où il y a un problème d'inflation, où aujourd'hui, les Français, ils ont du mal à remplir leur frigo parce que les prix augmentent. Là, par exemple, à partir du mois de février, les prix d'énergie vont augmenter de 15%. Il y a une crise énergétique. Donc, tout ça, le gouvernement le sait. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est déjà, avant la réforme des retraites, qui lui est défavorable. Et finalement, la convergence des mécontentements, ça, pour le coup, je me dis qu'on a peut-être une fenêtre de tir pour pouvoir faire reculer ce gouvernement.
On retombe sur le coup de poker qui peut coûter très cher. C'est là ce que j'ai évoqué.
Mais derrière, si vous stoppez le gouvernement sur cette réforme-là, il est stoppé net sur toutes les autres.
Je sens que je vais me prendre une cartouche là.
Non, pas du tout.
Avec le sourire, on peut regarder la gourmandise d'Éric Revel.
Non, mais en fait, vous auriez préféré quoi? Qu'on augmente les cotisations sur le salaire des travailleurs au risque de leur faire perdre plus de pouvoir d'achat? Vous auriez préféré quoi? Qu'on diminue les pensions au risque de taxer nos aînés? Et puis le sujet que vous abordez jamais, mais moi qui me tient à cœur, c'est la capitalisation. Pourquoi on mettrait pas un peu de capitalisation à côté de la répartition pour sauver le système par répartition? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé un truc qui m'a estomaqué. Le système préfonds des fonctionnaires, le système par capitalisation. Hein, ce qu'épargnent les fonctionnaires aujourd'hui, c'est placé sur les marchés financiers. C'est né en 1963. Vous savez avec qui? Avec des syndicats. Et faux, la CFDT était à la création de préfonds. La CGT aussi au début. Ben, ce fonds de capitalisation, il existe pour les fonctionnaires. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas? Pour soutenir la répartition. Alors, pas pour la faire disparaître.
C'est un gros mot, capitalisation, M. Villeneuve?
Bon, c'est un gros mot. C'est vrai que nous, c'est pas du tout dans la culture. On a un système par répartition que je trouve plus juste. Il y a d'autres pays qui ont choisi ceci. Oui, mais je crois que les retraites par capitalisation, c'est 3% à reprenez pas. C'est quand même un marginal.
En France, au niveau de la réforme, par exemple, effectivement, on pourrait le généraliser. Parce que, encore une fois, le but est de sauver la retraite par répartition, qui aujourd'hui est en danger. Donc, si on met une petite dose de capitalisation, ça permettra d'aider.
J'ai l'impression qu'ils essaient de vous convaincre.
On vous le sent sur le
par ailleurs, je tiens à dire que ces systèmes de retraite par capitalisation ne sont pas soumis à cotisation. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les systèmes de retraite par capitalisation,
c'est pas le sujet des cotisations, vous savez très bien.
Quand on dit qu'il y a un problème de ressources, donc s'il y a un problème de ressources, il y a une histoire de financement. Et par exemple, vous expliquez, et moi j'ai un désaccord avec vous là-dessus, c'est que l'augmentation des cotisations retraite. Voilà. Donc on sort le chiffre en 2027 pour résorber les déficits, il faudrait une augmentation des cotisations retraite, partie salariée employeur, annuelle de 407 euros par an. Voilà. Donc j'ai pris ma petite calculatrice, 407 divisé par 12, ça fait 34 euros. 34 euros, partie employeur et salarié, ce qui fait une augmentation de 10 euros pour le salarié par mois. 10 euros. Bah, très honnêtement, si vous dites aux salariés bah tu payes 10 euros de cotisation retraite par mois, mais par contre tu pars pas à 64 ans. Je pense pas que ça vous grève votre pouvoir d'achat de dingue. Par contre, ça vous empêche de partir à 64 ans.
Pardonnez-moi, ça me choque qu'un syndicaliste brillant comme vous ne sache pas qu'il y a des Français qui sont à 5 euros près à la fin du mois. Donc 10 euros, c'est quelque chose.
Oui, mais c'est aussi des Français à qui on va demander de bosser à 64 ans et qui ont des difficultés pour aller jusqu'à 64 ans. Donc ça, c'est une des pistes de financement. Je donne une autre piste de financement. Il y a un rapport qui vient de sortir par des hauts fonctionnaires, voilà, qui s'appelle Nos Services Publics, un collectif pour la défense de. Et en fait, ils sont appuyés sur une phrase du président du Conseil d'orientation des retraites, Pierre Louis Bras, qui a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas une explosion des dépenses, mais il y avait un problème de ressources. Et un des problèmes des ressources qu'il y avait, c'était le fameux CNRACL. Donc CNRACL, c'est un système de retraite pour les collectivités locales et pour les hospitaliers, donc tous ceux qui bossent dans les hôpitaux, qui ont eux un taux de cotisation de 41% sur les retraites, là où c'est 28% dans le privé. Et vu que le gouvernement prévoit qu'il y ait moins de fonctionnaires demain, du coup, ça affaiblit la masse globale de ressources. Et ils expliquent que finalement, les projections que font le gouvernement en termes de baisse, soit d'augmentation de salaire ou de baisse de salaire, ou en termes d'effectifs, fait qu'il y aura moins de gens demain qui cotiseront à 41% et plus à 28%, ce qui finalement affaiblit l'ensemble. Donc finalement, c'est parce qu'il y aura moins de fonctionnaires demain que les gens seront obligés de travailler deux ans de plus. Pour l'instant, il n'y a pas de réforme de la fonction publique.
Chaque année, le régime des retraites des fonctionnaires, justement, est en déficit de 30 milliards et que l'État, justement, le finance. Ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de trou, mais le trou, il est bien là. Donc, parce que, et encore une fois, ça augmente cette dette publique. Et très important, la dette publique, parce qu'on l'oublie, on a l'impression, c'est vrai que c'est une des erreurs du coronavirus, la dette publique a augmenté de 582 milliards d'euros, maintenant on vous dit 12 milliards, on comprend plus, on dit, bah oui, attendez, là, 582, 12 milliards, c'est pas grand-chose, sauf que le problème, c'est que pendant ces deux années, c'était financé par la Banque Centrale Européenne. Donc le taux d'intérêt était à 0%, et maintenant les taux d'intérêt augmentent. Donc, si jamais demain le gouvernement recule, ce qui à mon avis est peut-être probable, enfin, sur la réforme des retraites, ou entre guillemets, et il y a encore un trou, une dette publique qui augmente, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc nous tous les Français, effectivement, ben, on va avoir le coût de nos crédits qui va augmenter, et on va payer.
C'est déjà le cas, Marc.
C'est déjà le cas, mais ça va continuer. Ça va monter trop, parce que justement, c'est plus acheté par la Banque Centrale Européenne. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette dette publique, c'est plus quoi qu'il en coûte qui coûte rien. Cette dette publique nous coûte extrêmement cher. Et donc, si ça continue d'augmenter, ça sera évidemment de mal en pis et on aura une économie française qui, malheureusement, va souffrir de plus en plus.
Ouais. Fabien Médieu, vous pouvez répondre là-dessus?
Sur les financements, encore une fois, je sens être un dangereux gauchiste. Je pense que, avec un couteau entre les dents, la concomitance entre il n'y a pas d'argent dans les caisses de la Sécu et de l'autre côté, des dividendes de dingue qui se font, les gens se disent quand même, est-ce qu'il n'y a pas une petite piste pour récupérer un peu d'argent pour financer le système de retraite de tout le monde? Voilà.
Alors, Eric, là-dessus,
il est vieux comme le capitalisme, en fait, taxer les dividendes. Mais les dividendes.
Ils sont déjà taxés.
Vous savez ce que c'est qu'un dividende, en fait? Alors, ça peut être monstrueux, mais un dividende, c'est la rémunération de quelqu'un qui a pris un risque en achetant une action d'une société. Il a pris un risque. Et donc, pour le remercier, on lui verse un dividende chaque année. Bon, c'est ça un dividende. Alors, il y a des très gros dividendes, puis il y a des petits dividendes. Vous savez que dans des grands groupes français, par exemple, il y a plein de salariés, M. Villedieu, qui sont actionnaires de leur boîte et qui ont des actions de leur boîte et qui touchent parfois des dividendes. Vous voudriez les spolier aussi de leurs propres dividendes. Donc, si vous voulez, c'est pas une bonne pige, je vous dis franchement. Qu'il y ait une meilleure redistribution des profits, qu'il y ait une meilleure redistribution dans les pays comme les nôtres qui sont encore assez à l'aise, même si la dette est colossale, ça se discute. Mais la piste des dividendes, je comprends, ça parle à tout le monde, mais c'est absolument infaisable.
Avec la concomitance des deux.
Non, mais surtout, n'oubliez pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc pour eux, il n'y a pas des dividendes, c'est pas la folie, c'est des lendemains difficiles, des fins de mois difficiles. Donc ça veut dire que c'est ça également la réalité de l'économie française. Donc c'est là où c'est très dangereux. En laissant croire qu'il y aurait des dividendes comme ça, qu'on pourrait taxer de façon indue, ça pourrait être particulièrement dangereux parce que la réalité de l'entreprise française qui fait la force quand même de la France, c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui souffrent. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qu'il faut bien voir. Il n'y a pas de recette miracle, sinon, mais dans...
Ce qu'a dit Eric Woerth me semblait intéressant aussi tout à l'heure, M. Villedieu, c'est-à-dire il faut que les entreprises, quand même, prennent leurs responsabilités. peut-être au niveau des salaires et aussi au niveau de l'employabilité des seniors. Ça, c'est des sujets que l'entreprise...
Ça, c'est des vrais sujets pour les chefs
d'entreprise. Que l'entreprise devrait traiter. Et là, quand même, si j'ose dire,
sous-traiter. Merci Eric Revel, merci Fabien Villedieu, Marc Toiti, Louis de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly vous attend pour Face à l'info sur CNews. Hélène Zélani, Raphaël Delvolvé pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.